Exactement 8h à Bukavu, mesdames, messieurs, bon dimanche. Nous sommes aujourd'hui dimanche 15 mars 2026. Vous nous suivez dans la ville de Bukavu sur 88.8. Vous nous écoutez dans les territoires sur 91.7 partout au monde. Vous nous suivez en ligne sur internet en tapant le www.radiomandeleo.org. Nous vous remercions pour votre attention soutenue ce dimanche. Au menu de l'émission Paix Développement de ce jour, deux semaines après son déclenchement, le 28 février 2026, marqué par la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, le conflit ne montre aucun signe d'accalmie. Le Moyen-Orient s'est embrasé, provoquant une flambée de l'or noir, le pétrole, avec le blocage quasi total par l'Iran du détroit d'Ormuz, par lequel transite d'ordinaire 20% de la production mondiale d'hydrocarbures. Dans la ville de Bukavu, l'on signale déjà une spéculation sur le prix du carburant. Un litre d'essence s'est négocié entre 3000 et 3500 francs chez les revendeurs, communément appelés Kadhafi, alors que quelques jours auparavant, il était possible d'en trouver à 2600 voire 2800 francs congolais. Le secrétaire provincial du club des pétroliers au sud Kivu, Urbain Kangé, affirme que c'est depuis pratiquement deux semaines qu'il y a spéculation sur le prix du carburant. Urbain Kangé précise que cette hausse est justifiée par la guerre au Moyen-Orient, avec notamment la fermeture du détroit d'Ormuz. Selon plusieurs rapports, l'Afrique apparaît comme une source potentielle des terres rares pour les États-Unis, qui ne disposeraient que de deux mois de réserve de ces matériaux essentiels dans leurs réserves de défense, alors que la guerre avec l'Iran s'intensifie davantage. L'Afrique du Sud, le Botswana et la RDC sont en alerte comme fournisseurs alternatifs. L'Afrique pourrait donc entrer en danse dans peu de temps. Jusqu'où ira cette guerre? Quelles sont les conséquences envisageables à venir pour l'Afrique et la République démocratique du Congo? Nous en parlons dans l'émission Paix et Développement de ce jour, qui connaîtra une partie consacrée aux rumeurs faisant état de la disparition des organes génitaux qui continuent de prendre de l'ampleur dans l'opinion à Bukavu et ses environs, particulièrement à travers les réseaux sociaux. Plusieurs vidéos devenues virales sur différentes plateformes présentent des personnes poursuivies par la clameur publique sous prétexte qu'elles auraient occasionné la disparition des organes génitaux dans les trois communes de la ville de Bukavu. Que retenir de ce phénomène? Réponse dans l'émission Paix et Développement de ce jour, mise en onde par Jean-Claude Ndagué devant ce micro pour la présentation expédie Kialou. À Bukavu, nous rappelons les faits marquant l'actualité au courant de la semaine avant de vous présenter les premiers intervenants dans cette émission Paix Développement du dimanche 15 mars 2026. Commençons par un fait sécuritaire après les frappes des drones qui ont visé la ville de Goma dans la matinée du mercredi 11 mars 2026, faisant des morts et d'importants dégâts matériels. Les réactions se multiplient sur la scène internationale. Selon un bilan provisoire communiqué par l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFSAM 23, trois personnes ont été tuées dans ces frappes en plein cœur de la première ville de la province du Nord Kivu, la ville de Goma. La bombe aurait touché une résidence située au quartier Imbi, près du lac Kivu. Parmi les victimes figure une ressortissante française employée d'une organisation internationale. Ces incidents interviennent dans un contexte de fortes préoccupations internationales autour du respect du cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration conjointe publiée le 5 mars dernier, plusieurs pays occidentaux ainsi que l'Union européenne avaient déjà exprimé leur inquiétude face aux violations répétées de la trêve, notamment l'usage des drones lors d'opérations militaires. Dans ce contexte, la France a rapidement réagi à ces frappes. Dans un message publié sur son compte X, le président français Emmanuel Macron a appelé au respect du droit international humanitaire, insistant notamment sur la nécessité de protéger le personnel humanitaire engagé sur le terrain pour sauver des vies. De son côté, l'AFSAM 23 attribue ses frappes de drones au gouvernement de Kinshasa. Dans un message publié sur son compte X, le coordonnateur adjoint de l'AFSAM 23, Bertrand Bissimoi, accuse les forces armées de la RDC, FARDC, d'avoir mené ces attaques. Selon lui, ces frappes constituent une violation du cessez-le-feu en vigueur. Il déplore également le silence de certains partenaires internationaux impliqués dans les efforts de médiation. En réaction, le gouvernement congolais a indiqué mercredi que des enquêtes étaient en cours afin de déterminer les circonstances exactes des explosions survenues à l'aube dans la ville de Goma, lesquelles ont fait plusieurs victimes. Dans un communiqué publié par le ministère de la Communication et des Médias, le gouvernement de la RDC assure suivre la situation avec la plus grande attention et réaffirme son attachement au respect du droit international humanitaire, notamment à la protection des populations civiles et du personnel humanitaire. De son côté, Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef par intérim de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo MONUSCO, condamne l'escalade de la violence observée mercredi matin à Goma et rappelle que les attaques contre le personnel des Nations Unies pourraient constituer des crimes de guerre conformément au statut de Rome. Il appelle toutes les parties à ces immédiatement les violences conformément à leur engagement de respecter le cessez-le-feu, à privilégier la voie de la solution politique et le dialogue. En revanche, au sud Kivu, dans le territoire de Fizi, précisément à Mikenge et à Minembwe, dans les hauts plateaux, la violence n'a pas encore dit son dernier mot. Le même mercredi, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réaffirmé avoir abattu deux drones militaires qui survolaient la cité de Mikenge au sud Kivu. Dans une communication, l'armée indique que ces drones proviendraient des positions de l'AFCM 23. Un peu plus tôt, précisément le 9 mars dernier, des drones lancés par la coalition FARDC-Ouazalène de l'armée burundaise avaient bombardé le centre de Minembwe. Des sources locales indiquent que le bâtiment d'une radio communautaire locale avait été détruit ainsi que d'autres maisons, tout en rapportant la mort d'une fillette de 11 ans dans ses frappes. Plusieurs autres lignes de front restent également en ébullition, notamment dans le territoire de Massissio Nord Kivu, ainsi que dans les hauts plateaux d'Ouvira, ceux de Kalehe à Mwenga, ainsi qu'à Shabunda. Précisons que dans le cas des accords signés à Washington en décembre 2025, et des discussions tenues à Doha en juillet de la même année, les différents engagements prévoyaient un cessez-le-feu permanent et une cessation des hostilités. Sur le plan diplomatique, plusieurs initiatives internationales visant à apaiser les tensions dans l'est du pays sont en cours. Malgré ces démarches, la situation sécuritaire demeure fragile sur le terrain dans un contexte des tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali ainsi qu'entre Kinshasa et l'AFCM 23. Vous rappellerez que l'AFSAM 23 et le gouvernement de la RDC avaient démarré un cessez-le-feu dans le cadre d'une initiative supportée par l'Angola avec l'Union africaine. Malheureusement, le cessez-le-feu vole en éclats. Dans la ville de Bukavu, il existe désormais un nouveau maire de la ville. Sous l'AFSAM 23, c'est M. Nicolas Kialangalilwa. Ce dernier appelle la population à s'unir autour des valeurs fondamentales de développement et de sécurité. Il a lancé ce message à l'occasion de sa prise de fonction intervenue au cours d'une cérémonie de remise et reprise entre lui et son prédécesseur Ladislas Muganza wa Kandwa le vendredi dernier. Dans son discours, le nouveau maire a promis de faire de la sécurité et de l'assainissement son cheval de bataille. À ceci s'ajoute le renforcement des partenariats avec la SNEL et la Régie des eaux pour que la ville devienne éclairée et garantir un accès à l'eau à chaque ménage. De ce fait, il appelle la population de la ville de Bukavu à travailler main dans la main avec lui pour parvenir à améliorer les conditions de vie. Le maire sortant, Ladislas Muganza Kandoa, de son côté, souhaite à son remplaçant un bon mandat, tout en espérant qu'il va poursuivre la lutte entamée tenue dans l'enceinte de la mairie de Bukavu. Cette activité a été présidée par le vice-gouverneur sous la FCM 23 en charge des questions politiques, administratives et judiciaires, Dunia Bouenge Doux, en présence des bourgoumestres des communes, des chefs des quartiers, des chefs d'avenue et d'autres invités. Voilà ce que nous avons prévu en ce qui concerne le rappel des nouvelles. Un premier intervenant pour une communication en début de cette émission. Sylvain Mouchagaloussa, il est préfet d'études et responsable du groupe solidaire Inuka. Sylvain, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour à tous les auditeurs de la radio Mandeléo.
Vous êtes là pour l'annonce de la mise en œuvre d'une bourse en faveur des élèves orphelins dans la ville de Bukavu. Qu'en est-il exactement?
Effectivement, Expedi, comme vous venez de le dire, nous sommes responsables d'une structure qu'on appelle Inuka. Inuka, c'est un produit qu'on a mis en place pour subvenir aux besoins des enseignants parce que la période que nous traversons dans notre région fait à ce que le parent, les élèves, les enseignants se retrouvent dans une situation vraiment précaire. Ainsi, nous avons mis ce produit Inuka pour venir en aide aux enseignants. À quoi consiste Inuka? Inuka, c'est un produit qui donne de petits crédits aux élèves, aux parents, aux femmes des enseignants. C'est-à-dire, on peut facilement vous dire que par rapport à ces produits, un enseignant qui a sa femme, mais sa femme qui ne fait rien actuellement pendant cette période, nous on a pensé que on peut chaque fois, si l'enseignant est d'accord, donner un petit crédit et permettre à cette femme aussi de subvenir aux besoins de sa famille. Néanmoins, il y a des élèves aussi qui n'ont plus de moyens, les parents qui travaillaient avant, ils n'ont plus le travail. Alors nous on a pensé, en complicité avec le parent bien sûr, si le parent sont d'accord, à ses enfants nous pouvons donner deux petits crédits pour permettre à ces enfants peut-être un jour de subvenir eux-mêmes à leurs propres besoins. C'est un produit purement managérial et là les gens vont se poser la question où se trouve les bureaux d'Inuka. Inuka, c'est juste au niveau de Nyawera. Nous fonctionnons dans les installations de l'université du Sepromad, ISG à Bukavu. Ainsi, à un certain moment, on s'est dit, est-ce qu'il faut qu'on se limite par là? Nous avons tenté penser à l'extérieur. Nous avons cherché de partenaires. Ainsi, nous sommes tombés sur une fondation qui, donc, c'est pour un Congolais vivant aux États-Unis, Light of Hope Foundation. Alors, en français, ça s'est dit Fondation Lumière d'Espoir. Alors, cette fondation est dirigée par le docteur Jean-Baptiste Mugabe et sa femme Julienne Mugabe, résidant aux États-Unis, bien sûr. Mais la mission de cette fondation, quand on a trouvé, quand on cherchait les partenaires par rapport à notre vision Inuka Bukavu, la mission de cette fondation, on s'est rendu compte que cette fondation veut voir les orphelins transformer positivement leur vie et aider leur famille à devenir autonomes. Néanmoins, cette fondation Lumière d'Espoir tient à soutenir l'éducation des enfants orphelins et vulnérables en payant leurs frais scolaires et en les offrant un accompagnement pédagogique. Cette fondation aide aussi les enfants à trouver des bailleurs partenaires financiers pour poursuivre leurs études. Je vais me limiter par là. Quand je parlais avec les docteurs, avec la fondation Lumière d'Espoir, ils m'ont promis qu'ils peuvent d'abord, pour cette année scolaire qui débute, on va disponibiliser 20 bourses d'études pour les enfants.
Donc pour la prochaine année scolaire.
L'année scolaire qui arrive. Parce que comme vous le savez, nous sommes presque à la fin de cette année. Dans deux semaines, on ira en des temps de Pâques et quand on va rentrer, ça sera déjà la chaleur des examens de fin d'année. Alors moi, je voulais déjà demander.
Donc la bourse prévoit de soutenir la scolarité de 20 Enfants orphelins.
Orphelins.
Dans la ville de Bukavu, où ça concerne l'ensemble de la province.
Vraiment, on va toucher partout. On va cibler quelques enfants quand même intelligents qui se comportent bien et qui ont des difficultés de poursuivre les études. Ces enfants peuvent être à l'école primaire ou à l'école secondaire. Et là, la façon dont nous allons procéder pour cibler ces enfants, nous allons approcher soit des paroisses, des CEV, des églises, des pasteurs, parce que ces enfants existent, ils sont éparpillés partout dans la province. Alors si nous avons ces noms, nous allons vite, vite, parce qu'on nous a demandé dans 2 mois, 3 mois tout au plus, que nous ayons déjà la liste de ces enfants pour que la fondation commence à réfléchir par rapport au prix. Donc, aux frais scolaires que chaque enfant doit payer pour une année. Et pour ces 20 candidats, ils seront supportés durant leur cursus. Et en dehors de ces frais scolaires, cette fondation sera en train de mettre des moyens en place. Donc, donner des petits crédits, apprendre à ces enfants comment devenir autonomes, comment ils peuvent poursuivre eux-mêmes peut-être l'université, les mettre en contact avec d'autres enfants d'ailleurs, et voir comment ça peut changer la vie de certaines familles ou de certains enfants éparpillés dans la province du Sud Kivu.
J'ai bien entendu que vous allez plus cibler les enfants assidus, mais considérant qu'ils sont très nombreux, les assidus et les vulnérables, en nécessité de prise en charge, quels autres critères allez-vous mettre en jeu pour faire le tri ou pour sélectionner le 20, parce que j'imagine qu'ils sont très nombreux dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, les enfants assidus et orphelins ont besoin d'une assistance.
Effectivement, c'est cette question, je m'attendais à cette question parce que ça ne sera pas facile. Mais nous, on s'est dit d'abord, il y a des orphelins qui vivent mieux que certains enfants qui ont même des parents. Mais il y a aussi d'autres orphelins. Vous vous rendez compte dans une école, c'est un orphelin qui n'a ni père ni mère, mais qui quitte premier de l'établissement. Mais il ne sait pas se payer les études. Il finit l'école primaire, il ne sait pas commencer l'école secondaire. Pourquoi? Par manque de moyens. Alors si nous trouvons dans des écoles, parce que les chefs d'établissement aussi doivent nous aider, si nous trouvons qu'il y a des enfants comme ça, on va visiter et directement, on va prendre ces enfants, on va les sélectionner sur base de ces critères. D'abord, être orphelin et incapable de poursuivre les études. Deuxième chose, être capable quand même de continuer les études comme il faut, parce que il faut d'abord qu'on donne des bourses aux élèves qui sont capables de défendre ça et qui peuvent émerger au lieu de continuer à vivre dans cette situation. Expédie.
Merci beaucoup. La dernière question, vous allez vous déployer sur le terrain où vous resterez assis à votre bureau en attente des demandes.
Effectivement, nous allons envoyer des invitations dans différentes écoles dans les territoires. Dans des paroisses. Nous allons aussi circuler parce qu'il y a des territoires qu'on ne saura pas aussi. Parce qu'on a ciblé d'abord 5 territoires. On a pris Uvira, Walungu, Kabare, Ijui et Kalehe. On a commencé par ces 4 territoires. Alors nous avons des divisions, des sous-divisions dans chaque territoire. Il y a des inspecteurs qui sont là, nous sommes en contact avec eux. Ils vont nous faciliter à entrer en contact avec les responsables des écoles et détecter les quelques enfants par territoire. On va prendre 4 à 5 d'abord. Mais si les partenaires acceptent qu'on ajoute les nombres, nous sommes en train de travailler sur ça parce qu'ils nous ont promis, on commence d'abord, on verra s'il y a d'autres maisons qui s'ajoutent et aussi vont voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est comme ça que nous, on a pensé qu'on peut aider nos enfants qui sont en difficulté. Vous savez tous que la province du Sud Kivu, la situation que nous traversons aujourd'hui, beaucoup, beaucoup d'enfants ont abandonné les études parce que seulement il y a la guerre, mais aussi parce que le parent qui travaille ne travaille plus et d'autres qui ont perdu le parent pendant cette guerre. Pourtant, c'était des élèves forts qui se débrouillaient pas mal et nous, on est en train de penser qu'avec ces partenariats, nous allons encore donner la chance à 20 orphelins de poursuivre les études l'année prochaine dans des conditions acceptables.
Merci beaucoup à vous, Sylvain Mouchagaloussa. Nous vous gardons dans ce studio pour une réflexion qui concerne bien évidemment l'ensemble de la population du Sud Kivu, mais à certains égards aussi les élèves qui participent à une marge importante du secteur de l'éducation. Voilà, vous l'avez entendu dans notre introduction, exactement 8h19 dans la ville de Bukavu. Les rumeurs faisant état de la disparition des organes génitaux continuent de prendre de l'ampleur dans l'opinion à Bukavu et ses environs, particulièrement à travers les réseaux sociaux. Plusieurs vidéos devenues virales sur différentes plateformes présentent des personnes poursuivies par la clameur publique sous prétexte qu'elles auraient occasionné la disparition des organes génitaux dans les trois communes de la ville de Bukavu. Tout a commencé dans la commune d'Ibanda, plus précisément au quartier Nyalukemba. Un jeune vendeur des crédits prépayés s'est plaint publiquement, accusant un acheteur d'avoir provoqué la disparition de son organe génital. Cette accusation a alors suscité la curiosité de plusieurs personnes qui, sans trop réfléchir, s'en sont prises aux présumés auteurs. C'est seulement grâce à l'intervention du chef de quartier Nyalukemba et des services des renseignements que celui-ci a été sauvé de justesse. Tout contrôle fait et il ressort que l'organe génital jugé disparu était toujours en place, a confirmé le chef de quartier Nyalukemba, Kadibwa Micheru Makila. Des nouvelles vidéos ont été partagées indiquant que des faits similaires se seraient produits à Panzi, à Kadutu et à Bagira. Pour le chef de quartier adjoint de Panzi, Christophe Itongwa, j'y arrive, il s'agit d'informations mensongères propagées uniquement sur les réseaux sociaux. Même situation pour le cas de Kadutu, indique des sources de la société civile locale. Au quartier Moulambou, là, dans la commune de Bagira, une autre personne a échappé des justesses après avoir été accusée d'avoir occasionné la disparition de l'organe génital de son prochain. Toute vérification faite, il s'agit plutôt d'un manutentionnaire à Kalengera. Celui-ci voulait échapper aux personnes qui lui réclamaient le paiement d'un crédit, mais s'est vu accusé d'avoir fait disparaître un organe sexuel par l'un de ses créanciers. Dans la débandade, explique un cadre de base, le jeune homme a été pris à partie jusqu'à être grièvement blessé avant d'être sauvé de justesse puis amené à l'hôpital où il poursuit des soins indiqués. Au quartier Tchaï, en revanche, face aux rumeurs qui circulent sur le prétendu vol d'organes génitaux, la société civile sous noyau du quartier Tchaï tient à alerter la population. Le vendredi 13 mars 2026, vers 19h, un jeune de 20 ans, habitant de Tiragabwa, répondant au nom de frère Dani Daniel, a accusé un homme âgé de 56 ans, nommé Papa Bichikwa, beau résident chez Ndarou, de lui avoir volé son appareil génital. Après vérification de plusieurs recherches, il s'est avéré que le jeune homme est en parfaite santé et possède toujours son appareil génital comme d'habitude. Malheureusement, suite à cette accusation, le vieux innocent a été grièvement tabassé par la population et se trouve actuellement dans une structure sanitaire du quartier Tchaï pour recevoir le soin. La société civile rappelle que propager des fausses accusations et se livrer à la justice populaire est un acte puni par la loi. Chukuru Lui, qui est président de la société civile de Tchaï, demande à la population de ne pas céder aux rumeurs et de toujours vérifier les informations. Ensemble, préservons la paix et la justice dans notre communauté. Pour en parler, nous recevons dans ce studio le pasteur Miga Bunyagaza Albert, qui est coordonnateur de la synergie des chefs de quartier de la ville de Bukavu et expert en santé publique. Pasteur Miga Bunyagaza, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de la radio Maendeleo, bonjour aux 840 cadres de base de la ville de Bukavu, bonjour à mes frères autour de ces micros.
Nous recevons le docteur Amani Boussane Philippe, médecin psychiatre et chef du service de psychiatrie à l'hôpital des Panzi. Docteur Amani Boussane, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour chers auditeurs et auditrices de la radio Mandeléo. Nous sommes heureux de nous associer à cette émission de ce matin.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nous recevons Joseph Baraka, qui est président de l'Institut Patrice Emery Lumumba. Joseph, bonjour.
Bonjour aux co-débatteurs, bonjour aux auditeurs et auditrices et bon dimanche.
Je rappelle que vous êtes également médecin, mais bon, oui, vous jouez les doubles, les deux tendances au même moment. Nous gardons dans ce studio Sylvain Moucha Galoussa. Monsieur le chef de quartier, coordonnateur bien sûr de la synergie des chefs de quartier de la ville de Bukavu, ces cas sont signalés partout dans la ville, dans différents quartiers. Tout est parti du quartier Nyalukemba au courant de la semaine, en début de semaine, et un peu partout, déjà à Tchaï, Moulamboula, l'on signale des cas similaires. Vous, comme cadre des bases, quelle est la réalité que vous vivez sur le terrain? Avez-vous déjà recensé des cas qui vous ont été rapportés, vous personnellement comme chef de quartier d'Indéré? Si oui, sinon, qu'en est-il d'autres quartiers que vous censez superviser en étant coordonnateur, bien sûr, de la synergie des chefs de quartier dans la ville de Bukavu?
Merci beaucoup, Expedi. Vous posez la question de savoir si c'est ce que nous constatons dans la ville. Mais de toutes les façons, ce phénomène a commencé à partir de Mwenga, si vous vous rappelez bien.
Justement.
Et rapidement, dans un laps de temps, cette rumeur s'est répandue sur la ville de Bukavu. Et malheureusement, c'est presque dans tous les quartiers de la ville.
Vous précisez que ça a été signalé à Chabunda, à Mwenga, mais également dans la partie sud de la province, avant d'embraser la ville de Bukavu aujourd'hui.
Effectivement. Alors, c'est presque toute la ville qui est embrasée, et dans tous les quartiers de la ville de Bukavu. Quand on nous appelle, malheureusement, il y a des gens là qui se donnent à cœur joie, en train de frapper, en train de blesser, en train de faire des violences pour quelqu'un qui est accusé pour avoir volé le sexe ou encore les pièces d'une personne. Mais malheureusement, quand on y arrive, et on appelle les services d'investigation de la province, quand nous regardons, nous trouvons qu'en réalité, les pièces ou encore les organes génitaux sont là. Sont là, et je vous dis franchement, et quand nous appelons quelqu'un même pour aller au-delà même de cette confidentialité, et quelqu'un qui voit, mais il avait déjà commis une erreur, il se sent aussi surpris. Quand nous regardons, les pièces sont là. Mais ce que nous constatons en réalité en clinique...
Revenons en arrière, pasteur. Est-ce que vous-même, vous avez palpé du regard ces situations où elles vous ont été rapportées?
Pas rapportées, mais plutôt rencontrées. Quand on nous appelle, vous comprenez que je suis le coordinateur de synergie.
Voilà.
De notre synergie. Et quand j'y arrive, quand on nous appelle, quand j'y arrive, on raconte vraiment que le sexe est là, il n'y a pas de problème. Mais de toutes les façons, ce que nous constatons, ce que je disais en clinique, quand on regarde, on voit un rétrécissement du pénis. Un rétrécissement du pénis, pourquoi? Parce que seulement il a eu peur de ce qu'on est en train de rencontrer, ou quelqu'un a fait une petite blague. À cause de cette frousse-là, quand vous regardez, vous trouvez. D'ailleurs, si je peux encore insinuer ça, hier en consultation, le mercredi, j'ai vu même une maman.
Je rappelle que vous êtes également infirmier.
Oui, je suis infirmier. J'ai une structure au niveau de Kadutu, ma propre structure de sanitaire. Mais de toutes les façons, la fois passée, le mercredi, j'ai reçu une maman qui venait en courant parce seulement, non, on a fait disparaître le sexe de mon enfant. Parce seulement, un frère aussi, un élève, a fait une petite blague, parce que ce sont des mots déjà en vogue. Il a fait une petite blague avec son ami, son collègue. En touchant, il dit « Nitakubewaihi, Nitakubewaboroyako ». Et l'enfant directement qui se sentait déjà frustré, et il est venu à la maison, il a dit à maman, « Maman, c'est vrai, bah, il dit, c'est maman, c'est toi, niambi, atanibeba, unagakusa, nadiko, nasika, ça, c'est dans Zaloum ». La maman qui vient directement dans la structure, je regarde l'enfant, c'est vrai, très frustré là, et je parle, j'appelle maman en consultation, j'ai dit non, le sexe est là. Mais ce que j'avais constaté aussi, ça a été vraiment un rétrécissement, ou encore une atrophie pénuelle, et ça a été pour moi une surprise. Le même jour-là, j'ai reçu des cas, il y avait un autre cas d'un papa, qu'il avait pensé qu'on avait arraché ou enlevé, volé son sexe. Mais de toutes les façons, ça habitait toujours ça, un rétrécissement, mais le sexe était là, mais maman qui s'inquiétait déjà, mais après quand on a donné des petites explications, ils sont rentrés. Et pas le même qu'hier, hier nous avons reçu aussi un autre papa qui pensait qu'il était au marché, mais il a vu de loin quelqu'un qui était pourchassé comme quoi il est en train de voler le sexe. Mais comme il y avait un embouteillage à ce niveau-là, le type quand il fuyait, il a touché, et lui il a dit non, c'est-à-dire que mon sexe aussi est parti. Et pour vous dire que non, ça gêne déjà toute la province, ça gêne déjà nos avenues, ça gêne déjà nos quartiers, et nous devons peut-être en parler davantage. Vous savez, quand on parle, c'est vraiment le public qui parle de disparition de sexe, ou encore ces témoins en va, comme je l'avais déjà dit, à la mode, un mot au goût des jours, ou encore un mot de... On cherche seulement, mais de toutes les façons, je voudrais montrer à toute la population que ça, en clinique, ce n'est pas ce qu'on dit, ce que nous observons. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec un psychiatre au niveau de l'hôpital pendant plusieurs années à Kaziba, mais de toutes les façons, on avait encore vu un papa pareil, mais qui était venu pour une arthrite infectieuse. Mais un jour comme ça, pendant les rêves, il a rêvé, comme il a été, on l'appelait aussi un grand féticheur, il a rêvé que son ami féticheur, de cauchemar là, a volé son sexe. Narissema,
nililota mimi na kuambia ule mtu alishangaza hospitali yote. Aseme nililota fulani akamsema jina, kia fake ya vole mon sex, nione ilikuwa naikata na kaibeba. Wiki est venu pour une autre maladie, ça crée toute une panique à l'hôpital, mais il faudrait aussi qu'on puisse chercher, comme on avait une pharmacienne, on a tenté tout, il y avait des pommades qu'on pouvait même frissonner sur son pénis pour calmer la personne, mais il y avait un infirmier là qui était beaucoup bizarre aussi, qui a dit non, nitakuwa hivi la balikubeba hayo, inafaa nitafute kariani kwa kule mwenye uko na wazi alikubeba sex. Na kisha ndiye akakimbia kule kisha akwe mletea tuli yani. Comprenez que c'est un effet, c'est un phénomène qui est psychologique. Kisha ndiye akasema mimi nakuletea liani na hii liani utakuwa unaichoma na kisha unazungurusha pale sababu c'est psychologique, anamtunza tu psychologiquement. Ule bwana siku moja anasema ya kale kaliani kenyewe bilitoshi kwa ule bwana. Kalinituza ndani alitanimaliza huyu kafanishwa atanimaliza atanimaliza.
Mais pasteur, je comprends un peu votre argumentaire, mais considérant que nous sommes africains, nous venons d'une société qui a des racines également traditionnelles, est-ce que c'est réalité? Parce que bon, dans certains milieux, l'on rapporte par exemple que les hommes qui décident d'entretenir des relations avec des femmes mariées sont privés de leurs organes à certains égards, considérant que ces réalités ont été vécues à certains endroits, y compris même dans la province du Sud Kivu, l'on signale certains villages vers la partie sud de la province du Sud Kivu. Est-ce que on peut omettre cette considération au nom peut-être de la science auquel vous faites allusion, notamment en disant qu'il s'agit peut-être d'une dimension psychologique ou une dimension mentale qui dicte les attitudes des uns des autres?
Ah, merci beaucoup, Expedi. Fixez-vous sur les recherches qui ont été menées et aussi quand la science parle, on fait une petite expérience, on discerne et puis on fait encore d'autres recherches. Ouais. Actuellement, nous n'avons pas encore vu ou encore quelqu'un vraiment qu'on a volé le sexe, comme on l'a dit. Mais ce que nous sommes en train d'observer, ce sont des rétrécissements des sexes, ces rétrécissements du pénis, des rétrécissements des organes génitaux ont existé. On connaît les causes principales, on connaît les signes, on connaît même les conduites à tenir. Et on connaît aussi même les conseils qu'on peut donner.
Nous reviendrons sur ces aspects dans peu de temps. Docteur Joseph, est-ce que médicalement, le rétrécissement d'un organe se justifie ou cela est prévisible, quoi?
Oui, ça arrive, ça peut arriver. Déjà que certains éléments ont été déjà donnés sur les aspects psychologiques. Alors je laisse à l'aîné la charge de faire un développement sur les considérations psychosomatiques. Alors, donc, ayant fait cela, je sais qu'il en parlera davantage et mieux. Je reviens sur les autres considérations, par exemple sur le fait que le système physiologique humain, il agit par des interactions hormonales spécifiques. Il y a des organes génitaux qui fonctionnent en coordination avec le système central et que parfois si cette coordination hormonale est court-circuitée, il peut y avoir des effets sur ces organes génitaux là. Par exemple, si vous faites une castration, si vous faites par exemple une prostatectomie, vous aurez nécessairement certains retentissements sur les organes génitaux. Si vous avez bref, pour éviter de faire des développements longs médicaux, disons simplement que certains médicaments qui peuvent avoir des effets sur le système hormonal, le système endocrinien, peuvent, ou certaines maladies, ou certains actes chirurgicaux qui peuvent aboutir à par exemple des traitements de cancer, cancers qui ont un rapport avec des organes génitaux, par exemple au niveau des testicules, au niveau de la prostate et autres cancers, quand on les traite par chimiothérapie, par radiothérapie ou par ablation directe de l'organe, on peut avoir des retentissements. Vous savez que par exemple l'organe génital masculin, il agit essentiellement par coordination psycho somatique. C'est le centre neuronal, c'est le centre nerveux, le système nerveux qui donne des injonctions, qui commande, et qui commande à travers quoi? À travers des hormones. Alors, des hormones qui arrivent au centre, aux organes concernés, alors on peut avoir un relèvement ou une flatulence, ainsi de suite. Et si tout cela est brisé, on peut avoir un rétrécissement. Alors, après aussi, on peut avoir un rétrécissement qui finit ou qui s'est défini comme une atrophie. Ça veut dire, il n'a pas beaucoup tellement qu'il n'a quoi vraiment qui donc c'est si petit que bon voilà on peut se dire voilà c'est disparu. Non, c'est pas disparu, c'est juste que le un organe qui n'est pas commandé ou activé ou mis en, alors on dit que la fonction crée l'organe. Si la fonction n'est plus coordonnée correctement ou si toute la coordination ne se fait pas, l'organe va se retrouver dans une situation de non-fonctionnalité, et puis vous voyez que l'organe génital masculin, il est essentiellement un muscle. C'est un muscle, c'est les corps caverneux, c'est essentiellement, voilà, des vaisseaux sanguins, des muscles, ainsi de suite. Et un muscle, s'il n'est pas commandé, il dort, il s'endort. Et pour utiliser des concepts si simples et accessibles, il s'endort, et s'il s'endort, on dit que, voilà, il peut disparaître. Donc, médicalement parlant, ça s'explique. Il y a, comme on l'a dit, il y a des causes, il y a des contextes précis dans lesquels ça peut arriver. Et puis, après, je laisse aux considérations psychologiques aux spécialistes.
Avant de donner parole aux spécialistes, Sylvain, dans les écoles, quelle est la situation que vous vivez actuellement? Parce que les adultes, beaucoup, marchent désormais avec les épingles dans la ville de Bukavu. Et il faut signaler que même certains enfants... Un cas nous a été rapporté vendredi dernier. Un enfant a été retrouvé dans sa culotte avec le feuille de manioc. Donc, il prétend avoir reçu cette instruction à l'école de la part de ses collègues. Certains adultes marchent avec des braises dans les poches de leurs culottes, dans les poches de leurs pantalons. Vous, dans les écoles, quelle est la situation que vous vivez actuellement?
Merci beaucoup, Expedi, encore une fois pour la parole. Dans des écoles, comme partout, c'est la même chose. Vous allez vous rendre compte que les enseignants, les élèves, tous se sont stressés, ils sont traumatisés avec ces informations qui circulent dans la ville. D'ailleurs, que moi-même personnellement, que je considère qu'elles sont des fausses informations. Pourquoi je les dis? Parce que depuis que ces histoires ont commencé, on peut mettre même l'argent en jeu et demander à ces gens qui sont en train de chanter où est-ce qu'ils ont assisté au deuil de quelqu'un qui a perdu ses appareils génitaux dans la ville. Ou à Ouvira, ils ont assisté au deuil parce qu'on nous a dit, quand votre sexe disparaît, automatiquement, après 3 jours ou 2 jours, vous devez mourir. Donc, il n'y a jamais eu un cas pareil, mais moi je me dis, à un certain temps, j'avais suivi cette histoire aussi à Kalemi, mais les autorités, ils ont mis un système en place. Vous parlez de ça, on vous bloque et on bloque l'autre. Si on se rend compte que votre sexe est là, vous allez en prison. Et ça s'est vite terminé. Et comme à Bukavu, nous sommes spécialistes, vous allez vous rendre compte que même en cours de route, il y a des gens qui sont en train de circuler aujourd'hui avec ces outils, ces instruments, épingles et autres choses, et en train de crier, en train de convaincre les gens que c'est vrai. Pourtant, c'est faux. Moi, je demanderai aux autorités d'abord de nous aider. On attrape quelqu'un en train de vendre ça. Quelqu'un qui crie qu'on a volé son sexe. On bloque, parce que ça va créer des dégâts ici. À un certain temps, des justices populaires vont se manifester dans la ville comme ça, tout ça, et les gens vont perdre de vie. Et après, l'homme va retrouver son appareil et ça sera tellement compliqué. Et moi, je rentre un peu en psychologie parce que aussi je suis psychologue de formation. Vous allez constater qu'à un certain temps, l'individu, quand il y a des événements pareils, il développe ce qu'on appelle une forme de phobie, des peurs injustifiées. Et alors, à un certain temps, vous marchez. Même quelqu'un passé à côté de vous directement, vous allez envoyer votre intelligence au niveau du sexe. Vous allez, on vient de me voler ça. Alors pourtant, ce sont des fausses informations. Maintenant, nos radios, comme vous venez de les faire expédier, je vous remercie d'abord pour ça. Parce que la population, ceux qui sont en train de nous suivre, ils doivent savoir que ces histoires, ce sont des histoires fabriquées. Ce sont des histoires qui n'existent pas.
Ça peut exister. Considérant que nous sommes issus d'une société... qui a été primitive quelque part, une société africaine qui s'est basée sur les traditions. Faut-il vraiment écarter cette hypothèse? Parce que, en fait, oui. C'est ce que le citoyen lambda est en train de raconter sur le terrain à la cité. Mmh. Il estime que l'intellectuel là, veut réfléchir plus grand, oubliant qu'il existe certaines réalités propres aux sociétés qui sont les nôtres.
Expédie. Je ne vais pas refuser ou rejeter nos traditions et tout ce qui accompagne nos cultures. Non, ça, je ne vais pas rejeter. Mais moi, je voulais seulement vous poser une seule question. Pensez-vous que si vous appelez dans la ville, on fait des communiqués, que quelqu'un se présente depuis qu'on a commencé à parler de ces histoires, qui a perdu son appareil génital, vous verrez même une seule personne. Je vous assure qu'il n'y en aura pas. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas des cas palpables, des cas qui existent, je ne crois pas
qu'on soumis à l'autorité.
À l'autorité et on constate chez le médecin, on trouve que c'est vrai. Moi, je ne saurais pas, je n'accepterai jamais que ces bruits continuent à circuler dans la ville. Parce que en famille, ma grand-mère, avant-hier, elle me dit tôt le matin. Pourtant, son mari venait de mourir à 85 ans. Elle me dit tôt le matin. Minaenda kwanza niende mtu aniambia ataletea pengle pale kwa mimi na shindaka na mimi niitie ku nini. Alors moi je me dis quand on commence à traumatiser même nos parents, nos enfants à l'école, il faut voir. Moi je suis chef d'établissement. Vous arrivez en classe, chaque enfant, vous regardez ceinture, on a collé des histoires comme ça et les parents ont déjà comme que c'est une réalité. Et moi je demande à ces gens s'ils existent, bien sûr, qui viennent à l'EDAC, qu'on vient retirer mon appareil. Celui-là qui est spécialiste, il vient, il me touche, il part avec mon appareil, je suis prêt. Et là je serai maintenant d'accord et nous on va venir sur Radio Maïndélé, on va dire aux gens, désormais c'est une réalité. Mais moi je vous dis, expédie, travaillons sur ça, c'est une fausse information et ça va passer. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, il suffit que l'autorité au niveau de la province s'implique et c'est fini, ça va passer.
Merci beaucoup. Nous prenons à présent le spécialiste docteur Amani Boussane Philippe qui est médecin psychiatre, chef de service de psychiatrie à l'hôpital de Panzi. Docteur Amani, est-ce que ces cas vous ont été rapportés?
Merci beaucoup, cher journaliste, pour la question. Je remercie les interventions de mes amis, mes collègues qui ont précédé. Et sur la question du jour, la disparition du sexe à Bukavu. Je pense que je peux aborder cette question de trois manières. D'abord sur le plan culturel, sur le plan médical, psychiatrique, et puis sur le plan maintenant contextuel. Donc c'est un peu décontextualisé par rapport à la situation du moment.
Justement.
Alors culturellement, on sait bien que le sexe a une place dans la société. Il y a une représentation attachée au sexe. Et la virilité de l'homme, on la considère, c'est par rapport à son sexe. Un homme impuissant, même si il a vraiment des muscles, il a des biceps, culturellement, il n'est pas considéré comme un homme. Un homme qui n'a pas mis au monde, culturellement, il n'est pas considéré comme un homme. Alors, la place qu'on a attribuée à ce sexe a aussi ce qu'on appelle les croyances qui sont attachées à cet organe. Par exemple, aujourd'hui, on sait que une personne qui a des problèmes au niveau culturel, bon, nous tous, nous sommes de Bukavu, nous avons grandi ici, il n'y a pas, dans les années passées, des fois on disait que non, tel, alienda mwenza keidui, alienda yivi, voilà. Donc, quelque part, il y a cette puissance culturelle dans le règlement des comptes ou dans la résolution des problèmes. Alors, le sexe peut disparaître culturellement. D'abord, dans des histoires si je peux appeler ça mauvais sort. Voilà, mauvais sort par exemple. Quelqu'un qui a volé les choses d'autrui, culturellement, on peut lui retirer le sexe culturellement. Sur le plan anthropologique, c'est prouvé. Le sexe peut disparaître comme un châtiment divin, culturellement. Par exemple, les gens qui parlent des misiro chez les bashi, hein, vous violez les normes de la société, et culturellement, on dit que lorsque vous violez les normes de la société, vous irritez les ancêtres, vous irritez les dieux de la culture, et voilà, ils vont vous châtier à leur manière. Ils peuvent vous tuer, ils peuvent vous jeter une maladie mentale, ils peuvent disparaître un organe, et ainsi de suite. Culturellement, ces histoires-là sont connues et dans certaines cultures, ça existe. Il y a des endroits où on vous dit que si vous voyagez, vous arrivez dans un tel village, les gens laissent les boutiques.
couverte, il laisse tout dehors, les portes ne sont pas fermées.
Vous déposez l'argent.
Voilà, vous déposez et vous partez. Si vous osez partir avec quelque chose, vous allez voir ce qui va vous arriver. Culturellement, il y a ça. Et ce n'est pas fréquent et ce n'est pas général. Ça peut arriver à une personne, par exemple, dans 10 ans, on peut déclarer un seul cas pareil. Et ce sont des choses qui se règlent aussi culturellement. Vous allez voir, par exemple, on vous dit que non, quand on le vivait à Viabat, on vous dit que vous parlez de lui vivait. Ah, ouais, on a moyen de vivre habitué pour régler les choses. Voilà, et le problème est réglé culturellement. Mais ce n'est pas à dire qu'on va commencer à voir dans tous les villages, dans toute une ville, dans toute une province, les gens, parce que les grands frères et les petits frères, et puis les organes vont commencer à disparaître, non.
Et pour le cas de Bukavu, ça va plus loin, parce que l'on prétend qu'un simple contact physique assure la disparition de l'organe.
Non, ce n'est pas ce que la culture dit par rapport à ça. Lorsque le sexe va disparaître dans le cadre d'un châtiment divin, ou d'un mauvais sort, ou du maraboutage, ou d'ensorcellement, il y a quand même des cadres et des gens qui savent comment régler ces problèmes. Et ce n'est pas d'une manière généralisée. Culturellement, ça existe. En ethnopsychiatrie, des fois, il y a ces chapitres qui forment sur les représentations culturelles des maladies en Afrique. Et là, on explique tout cela. Et il y a même un professeur sénégalais qui a écrit sur le sexe qui rend fou. Il a montré la place du sexe au niveau culturel et ce que sa disparition peut entraîner. Et il a insisté aussi sur la stérilité masculine. Il a montré comment cette stérilité entraîne la chosification de l'homme. Cette stérilité entraîne la perte de la place de l'homme au niveau de la société. C'est la même chose avec cette question de disparition des sexes au niveau culturel.
Voilà.
Donc culturellement, ça existe. Dans les cadres de règlement de compte, dans les cadres des châtiments culturels, ça existe. Mais là, sur le plan médical, le sexe ne peut pas disparaître comme ça. Mon collègue médecin a déjà expliqué qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent entraîner une atteinte du sexe masculin ou du sexe féminin. Il y a quand même des causes qui vont entraîner un rétrécissement. L'organe qui va devenir flasque, qui ne peut pas entrer en érection. Il y a des causes bien connues. Et au niveau provincial, nous avons des médecins qui sont bien formés pour ça. Nous avons même des spécialistes en urologie qui peuvent apporter des réponses cliniques par rapport à cela. Il y a même le professeur Benga qui est à l'hôpital provincial, qui est urologue. Les gens peuvent le consulter pour avoir des éclaircissements sur l'implication clinique de cette question. Il y a le docteur Changaloumé qui est là, ils peuvent nous apporter des informations supplémentaires. Mais vous allez voir que tous ces gens ne sont pas au courant de ces problèmes sur le plan somatique.
Okay.
Ces médecins, bon, moi je n'ai même pas entendu un hôpital qui a déclaré avoir reçu une personne qui n'a pas le sexe dans ce contexte. Donc il n'y en a pas.
Non, il y en a, c'est ce que je disais là.
Non, non. Où le cas est constaté, avéré,
on confirme. Oui, oui. Parce qu'il y a des normes sur le plan santé publique pour déclarer des choses pareilles. Alors, jusque-là, on n'a pas encore de déclaration, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau
technique,
au niveau technique ou médical. Et c'est le grand problème, c'est au niveau santé mentale de la population. Au niveau santé mentale. Donc, avant de toucher ce qui se passe sur le plan public aujourd'hui, donc, sur le plan médical, nous avons les côtés psychiatriques. Les côtés somatiques, donc, le rétrécissement doit être prouvé et confirmé par un médecin somaticien. Il peut être un médecin généraliste, il peut être un médecin urologue, spécialiste en urologie. C'est lui qui doit faire les constats et dire oui, il n'y a pas l'organe ou pas. C'est lui qui doit faire les constats et dire oui, il y a un rétrécissement. Et ce rétrécissement ne date pas d'aujourd'hui. C'est un rétrécissement qui est chronique, qui date des années. Soit il est né comme ça, ou bien il peut dire qu'il n'y a rien de rétrécissement, tout simplement parce que l'organe est flasque. Et il va essayer de provoquer l'érection, voir si ça va disparaître. Il faut qu'il soit vraiment quelqu'un qui s'y connaît Et qui peut examiner ces gens et confirmer les choses? Côté psychiatrique, on connaît qu'il y a des maladies psychiatriques dans lesquelles les gens peuvent avoir des idées sur la disparition du sexe alors que le sexe est sur place. Je prends d'abord sur le plan psychotique. Quelqu'un qui présente un délire avec des hallucinations. Dans ces hallucinations ou de ces illusions, il peut voir comme s'il n'a pas de sexe alors que le sexe est présent. Et là, c'est l'examen psychiatrique qui va confirmer qu'il a développé un délire avec un mécanisme hallucinatoire ou illusionnel. Et dans ce mécanisme, il ne voit pas son sexe que tout le monde est en train de voir. Ce cas est arrivé et nous avons reçu un patient, je crois que c'était en 2020 ou 2021, avec le docteur Nanga Panzi. Quelqu'un qu'on lui amène disant qu'il n'a plus de sexe. Mais quand on fait l'examen, on trouve que le sexe est présent. Et on le transfère en psychiatrie, on trouve que c'est un psychotique, c'est un schizophrène. Et on a pris en charge ses idées, et ses idées ont disparu, et le problème s'est corrigé, et la personne a perdu ses troubles de perception. Donc, il y a un trouble de perception dans lequel la personne peut voir comme si son organe n'est pas là. Ce n'est pas seulement le sexe. Il y a celui qui peut vous dire qu'il a plus la tête, et la tête est là. Il peut vous dire qu'il n'a plus les pieds sont là. Mais quand vous traitez avec le temps, sous psychotrope et autres, les troubles là vont se corriger et il va commencer à se voir normalement. Il y a ce genre de pathologie.
Et qu'est-ce qui peut favoriser cette pathologie exactement?
Alors, je dis que nous sommes dans la catégorie des pathologies psychiatriques. Je termine d'abord à donner les différentes pathologies dans lesquelles on peut avoir des choses pareilles.
Justement.
Et puis je vais revenir sur votre question. En fait, il y a les pathologies, dans les pathologies névrotiques par exemple, nous avons les troubles obsessionnels compulsifs.
Vous parlez de quoi exactement là?
On appelle ça TOC. C'est une maladie en psychiatrie où la personne développe des idées parasites. Ce sont des idées contraignantes qui vont mettre la personne mal à l'aise. Et pour apaiser ses idées, la personne doit adopter certaines attitudes, soit des vérifications qu'on appelle les rituels, pour apaiser ses idées. Je rappelle, quand le coronavirus a commencé, les gens ont développé les TOC ici. Et à tout moment, les gens pensaient qu'ils sont infectés. Les gens se promenaient avec des gels. Vous allez voir quelqu'un, chaque seconde, il mettait les gels sur les mains. Chaque seconde, il devait se laver. Chaque fois, on devait épousseter les tables et les chaises. Et si les gens n'époussettent pas ça, mentalement, il y a ces idées-là qui gênaient. Et je donne autre exemple. Quelqu'un qui souffre du TOC, par exemple, il peut avoir les idées qu'il n'a pas fermé les bureaux. Et vous allez voir qu'il est en train de faire de tout et de tout pour vérifier. Est-ce que le bureau a été fermé? Il trouve que le bureau est fermé. Il part, il arrive là où il doit prendre le taxi, mais il dit, mais je n'ai pas fermé le bureau. Il rentre.
Il
ferme. Il vérifie, la porte est bien fermée. Il quitte le bureau. Il arrive chez lui à la maison. Il appelle ses collègues au travail. Vérifiez bien si j'ai fermé mon bureau, alors que le bureau est fermé. Cette idée est là, et ça entraîne ce rituel de vérification, alors qu'il a fermé, mais comme c'est une idée parasite, ça va perturber la personne. C'est le cas qu'on a aujourd'hui. On dit que le sexe a disparu. Mais quand le sexe a disparu, cette idée de disparition du sexe est devenue comme une idée parasite au niveau cérébral, au niveau mental, au niveau psychologique. L'appareil psychique prend ça comme un virus. Alors, à tout moment, cette idée peut revenir en tête et vous allez voir les gens adopter des attitudes de vérification. Les gens qui portent des épingles, ne pensez pas que tous ces gens n'ont pas de problème. Ces gens qui portent des épingles, peut-être ils ont développé ces TOC. Et les moyens, le mécanisme de défense par rapport à ces TOC, c'est sur ces épingles, ces élastiques qui sont en train de porter. Il y a aussi des attitudes de vérification. Vous allez voir quelqu'un qui est à tout moment en train de vérifier son pantalon. Pantalon. Est-ce que les organes sont encore là? C'est un moyen de rituel d'apaisement de ces idées parasites que les gens ont développé par rapport à ces
situations. C'est bien entendu, docteur.
Ça, c'est les TOC. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Corot. C'est un vieux syndrome qui a été découvert, publié pour la toute première fois en Asie et qui a évolué, et en Afrique on considère ça comme étant culturel, ce n'est rien d'autre que les troubles obsessionnels compulsifs, où les gens développent des idées comme quoi le sexe est en train de se rétrécir, le sexe est en train de rentrer dans l'abdomen, alors jusqu'à sa disparition. Alors, ce syndrome existe parce que, à ces idées de rétrécissement du sexe, il y a aussi une anxiété qui est là, on appelle en swahili wasiwasi, la personne qui est en insécurité intérieure. Mais à part cela, il y a ces problèmes que les gens vont présenter. Les problèmes, on peut avoir d'autres signes associés, des douleurs et autres qui peuvent suivre. Donc, vous allez voir des manifestations qu'on appelle psychosomatiques qui vont accompagner cette idée de rétrécissement du sexe. Et ça a été déclaré depuis des années en Asie. Et aujourd'hui, ce n'est pas différent de ce qu'on est en train de voir.
Docteur, parlons maintenant des causes.
Bien en parler.
Les causes.
Les causes, oui. Mmh. Les effets directs, quoi. Mmh.
La maladie mentale n'a pas une seule cause. Parce que ce que nous sommes en train de voir, c'est un problème de santé mentale communautaire.
Voilà.
Nous savons très bien que notre milieu est traumatogène. Je l'ai dit, parce que nous savons que les conditions de vie actuelles, nous sommes dans des conditions difficiles, que ce soit sur le plan naturel, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan sociétal. On a beaucoup de problèmes qui génèrent les traumatismes.
Okay.
Et ces traumatismes entrent, s'ajoutent sur les autres facteurs qui interviennent comme problème de santé mentale dans la région. Et on dit toujours en santé mentale que la maladie mentale n'a pas une seule cause. Il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu et qui entraînent les problèmes de santé mentale. Mmh. Aujourd'hui, nous tous nous accumulons. Mmh. Et voilà pourquoi il y a ces histoires. Mmh. Ça n'a pas commencé par la question de disparition des sexes. On a connu les problèmes de cannibalisme ici. On a connu les problèmes d'abus sexuels en cascade ici. On a connu. Vous allez voir que tout cela rencontre la question des dissociations communautaires, dissociations collectives, les gens qui ont développé une certaine dissociation au niveau mental, et nous sommes dans une société qui n'est pas prise en charge, et voilà comment les choses commencent à prendre de l'ampleur. Donc, dire que c'est A ou B qui est la cause, je serais en train de mentir.
Dans le lien de cause à effet,
c'est une association de plusieurs phénomènes, plusieurs événements qui fait que les gens commencent à développer. Même les réseaux sociaux. Comme vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a des petites vidéos comme ça qui montrent les gens qui sont en train de partir avec le sexe des autres. Hein? Et sur base de cela, les gens peuvent développer une idée qui sera une idée pathologique au niveau communautaire et qui va entraîner des cascades et des complications au niveau mental.
Voilà.
Donc, on peut dire que c'est une question dont la cause est un déterminisme plurifactoriel. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu et qui poussent les gens, certaines personnes, à développer ça.
Voilà, nous revenons sur les comportements à prendre dans peu de temps pour clore cette partie. Albert Migabo, vous également comme acteur du domaine de la santé, pour vous, quels sont les effets additionnels auxquels on peut se joindre en addition aux propos du docteur Boussani?
Ce qu'on peut joindre, je pense que le docteur a tout dit, mais de toutes les façons, quand on voit et quand des recherches montrent que au moins ces traumatismes-là où le père stresse occupe au moins 94% des cas qu'on vit pour ces problèmes-là mentaux. Nous n'allons pas oublier aussi que même avec le tabagisme, ça affecte aussi la vascularisation au niveau du pénis et aussi l'avancement en âge pour ce qui concerne le rétrécissement des sexes-là. Et aussi, on peut même parler à cause d'une perte d'élasticité des tissus du pénis et des fonds fuyants. Quelqu'un qui a un problème de cryptorchidie, hein, ça fait un temps, il n'a pas de testicules dans le scrotum. Lui, il peut penser que non, comme c'est le moment, je peux montrer qu'il est tellement touché et il m'a volé mon sexe. Il m'a volé mon sexe pour montrer aux gens que
le problème existait déjà.
Ça existait déjà. Mais il montre que non, on m'a triché mon sexe, puisque chacun a sa manière d'appeler. On m'a volé les zizi, on m'a volé les, mon bord, on m'a volé mes pièces. Mais de toutes les façons, le docteur, avec tout le respect, il a parlé de culture. Même pas, c'est, la culture n'a pas vraiment spécifié le sexe qui a été volé à ce niveau. Mais je voudrais rassurer ici que la vie de l'homme va dans la direction de sa pensée la plus dominante. Alors si c'est là, cette pensée-là qui domine, lui il pense que on a fait ceci, et le docteur l'avait déjà aussi dit, la vie de l'homme va dans la direction de sa pensée la plus dominante, et quand directement c'est que la maman, l'enfant pense qu'on a volé, quand vous voyez vraiment avec toute la pression qui arrive, vous comprendrez que ces gens sont en train de souffrir, et les mécanismes, les gens, vous devrez comprendre que avec ce que nous sommes en train de vivre, ça peut entraîner. Le corps que nous avons ici, c'est une grande machine très compliquée qui est commandée par le cerveau via l'hypophyse, via l'hypothalamus. Et il faut que les gens comprennent que ce qui arrive, c'est pour un moment, c'est momentané, et que ça doit passer. Il faudrait qu'on puisse développer un esprit de résilience.
Quel message, en conclusion, adressez-vous aux habitants, tant de votre quartier, mais aussi aux habitants d'autres quartiers de la ville de Bukavu, qu'il faut rappeler que la peur est réelle.
Oui, oui, elle est là, elle est réelle, mais de toute façon, nous devons savoir dominer nos émotions, les émotions, pour ne pas les émotions qui nous dictent les comportements, et tomber même dans des violences qui peuvent être soit physiques, psychologiques ou même verbales. Et ce sont des faits qui sont constitués, qui sont infractionnels. Si on continue dans ce sens-là, on risquera de payer les pots cassés dans les temps. Et aussi, nous devons développer la capacité de surmonter les tensions, les circonstances de la vie qui engendrent les violences et les frustrations. Et nous voulons encore dire à toute la population que la peur ou encore le stress sont momentanés, et nous devons développer un mécanisme. Le corps lui-même, si vraiment nous mettons sur place, nous réfléchissons encore deux fois avant de réagir, nous devons connaître que le corps lui-même développe un mécanisme de résilience. Nous devons faire attention avec nos agissements socialement incorrects, des violences ou encore quand la majorité silencieuse de la population qui nous observe, nous pouvons encore agir, nous faisons des mauvaises choses, et après ces gens-là qui sont silencieux, après ils nous diront un jour que non, toi tu as fait ceci ou cela, et nous devons comprendre que nous vivons les jours où les petits mal ou une petite erreur occasionnelle commise peut nous coûter toute la vie en prison, parce que seulement on a réagi, on a blessé tel, il a volé les pièces. Et quand on amène quelqu'un qui il constate que on a déjà tué, mais on constate que les pièces sont encore là, ça crée un sérieux problème.
Merci beaucoup, Pasteur Albert. Docteur Amani Boussane, considérant que la peur est réelle, quelle que soit peut-être notre participation ou notre intervention à cette émission, il y a toujours des gens qui conçoivent en tête que la situation est réelle sur le terrain. Bon, au vu des facteurs auxquels vous avez fait allusion, quelles dispositions prendre sur le plan peut-être thérapeutique pour ne pas tomber dans des agissements qui ne seront pas appréciables à la portée du public, bien évidemment.
Voilà. Avant de répondre, je voulais dire ceci. Si vous lisez Épictète, il a dit que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais ce sont les idées que nous faisons des choses. Ça veut dire que la disparition du sexe n'est pas un problème. Mais le grand problème, ce sont ces idées que la population a développées autour de la question. Et ce qui constitue un danger aujourd'hui. Les enfants stressés ne peuvent pas être vraiment performants à l'école. Les parents stressés ne peuvent pas être efficaces au travail. Les personnes stressées, ils seront quelque part anéantis et il y aura une baisse de performance et perturbation des rendements. Donc nous devons d'abord nous mettre, nous tous, d'accord sur la lutte contre ces fausses idées qui circulent. Donc combattre d'abord ces idées à travers les sensibilisations
au niveau communautaire, à travers les OBC, à travers les églises, à travers les écoles, et nos relais communautaires doivent être vraiment très courageux, efficaces et motivés pour combattre ces idées, parce que ces idées sont très très dangereuses par rapport à notre société. On commence par là. La personne qui déclare qu'on a amputé ses organes, on a volé ses organes, c'est le mot qui est utilisé, que cette personne-là ne soit pas lynchée. La personne qu'on accuse qu'il a retiré des organes, que cette personne-là aussi ne soit pas lynchée, parce que nous sommes dans un milieu où la justice populaire est considérée comme le moyen de défense et de résolution des problèmes. Donc, il ne faut pas qu'on tape ces gens. Il ne faut pas qu'on brûle. Il y a quelqu'un qu'on a failli brûler, paraît-il, à la brasserie. Moi, je pense qu'il ne faut pas taper ces gens. Remettez ces gens dans les services de l'ordre public. Donnez ces gens à la police. Celui qui a déclaré qu'on a arraché ses organes génitaux, la police va faire une réquisition ou demande d'expertise médicale. La police va l'amener dans une structure médicale. La structure médicale va examiner. Si on retrouve que le sexe est à sa place, les médecins qui l'ont examiné ou l'infirmier doit demander un avis psychiatrique. Il n'y a pas longtemps, j'ai demandé qu'on envoie tous ces gens au service de psychiatrie, mais personne n'est arrivé. C'est que c'est pas vrai. Parce que si c'était vrai, on allait les envoyer, parce qu'on a fait appel. À mon service, j'ai fait appel public, que les gens, on les amène à l'hôpital de Panzi. Les gens qui déclarent que les sexes sont partis, on ne les amène pas. Alors, donc, pourquoi on doit collaborer avec la police? Un, c'est pour protéger les gens. Deuxièmement, la police lance l'expertise médicale. Si médicalement on trouve que le sexe est sur place, il peut développer des idées délirantes. Il peut avoir un problème mental. Mmh. Voilà pourquoi on va envoyer aussi en psychiatrie, soit au centre Sosa, mais soit à l'hôpital de Panzi, pour demander l'avis psychiatrique sur cette question. Si maintenant l'avis psychiatrique prouve qu'il n'y a pas un problème mental qui pousse la personne à déclarer que le sexe n'est pas là, là on va remettre encore la personne entre les mains de la police. Et c'est la police maintenant qui va gérer la situation.
Bien entendu.
Parce que si la police ne s'implique pas dans cette question, et si nous ne nous activons pas pour la sensibilisation, déjà ça commence à perturber nos enfants dans des écoles, et nous sommes dans un système où les soins en santé mentale ne sont pas bien organisés au niveau local. Ces enfants risquent de mal évoluer jusqu'à devenir de vrais malades mentaux dans les jours à venir.
Merci beaucoup.
Voilà pourquoi nous devons combattre cela. Voilà.
Merci beaucoup. Voilà. Donc, en conclusion, nous gardons la même conclusion. Sylvain, comme éducateur.
Oui, effectivement. Merci beaucoup pour la parole encore une fois. C'est que le médecin, le psychiatre venait de dire, et papa
Migabo.
Albert Migabo, je crois que c'est déjà suffisant pour la population, mais aussi nous devons remercier Radio Mandeléo, parce que je suivais une radio, ne vous en faites pas, Expédie, où les journalistes font des micros, donc on appelle, donc les gens appellent par rapport à cette question. C'est comme ça qu'ils ont pensé qu'ils peuvent régler ça.
Merci.
Et les gens disaient des histoires là, c'est vrai, tout n'a pas, tout n'a pas. Mais ce que le médecin a dit, c'est qu'on doit faire pour éradiquer ces histoires ici. Rassurez-vous que toute personne stressée avec ce que nous traversons aujourd'hui, tout le monde développe des anxiétés que tu ne peux même pas t'imaginer.
Si je comprends
la
bien,
pauvreté, la guerre, tout ce qu'il y a qui nous entoure, même quand tu n'as pas l'argent, nous nous sommes démarrés presque ici. Quand tu es en difficulté, rassure-toi que ton appareil génital ne fonctionnera jamais. Mais il y a des gens aujourd'hui qui commencent à se... centraquiser. J'ai un problème avec Expédie et moi je me dis qu'est-ce que je vais faire. Comme je suis, je vais crier qu'il m'a volé l'appareil. Et les gens vont, j'ai vu ça au niveau de Sonas la fois passée. Mais après quelques minutes, le type me dit, comme on l'a bloqué 3 minutes, le sexe vient de rentrer. Alors moi je me dis, ça devient compliqué. Alors pour les parents, je voulais rassurer la population et montrer que ces histoires-là ne peuvent jamais arriver à quelqu'un qui croit en Dieu d'abord. Restons à ce niveau-là et dire que tout chrétien, cela ne peut jamais arriver parce qu'il y a un Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Il ne peut jamais accepter que cela arrive. Et ces gens qui continuent à vendre des histoires, des épingles, des histoires, et ils ont des micros acteurs. Au niveau de la place du 24, j'ai vu des mégaphones. Il y a un terme qu'ils sont en train d'utiliser. Qu'on arrête ces gens, que les radios continuent à sensibiliser, qu'on appelle les gens, qu'on parle de cette question et ça va disparaître. Ça fait à peu près un mois qu'à l'émission, on a fini comme ça. C'est momentané et je crois à Bukavu si ça va passer.
Il y a aussi des arnaqueurs dans ces histoires.
Dans ces histoires-là, là, ça devient compliqué. Merci beaucoup.
Merci donc, merci beaucoup à vous Sylvain, mon cher Galoussa. Merci au docteur Amani Boussane, médecin psychiatre et chef de service de psychiatrie à l'hôpital de Panzi. Merci au pasteur Miga Bonyagaza et à Joseph Baraka pour la participation à cette partie de l'émission Paix Développement de ce jour. Nous prenons une pause et juste après nous viendrons pour parler de la guerre dans le Golfe. Merci. Merci beaucoup. À Bukavu, ce dimanche 15 mars 2026. Jean-Claude Ndaga sur la mise en œuvre. Vous suivez l'émission Paix Développement de Radio Mandeléo. Merci beaucoup pour l'attention que vous manifestez. Les invités dans ce studio, nous gardons le docteur Joseph Baraka, président de l'Institut Patrice Emery Lumumba. À présent, nous accueillons Bakanga Ntuali Pacifique, qui est enseignant à l'Université officielle de Bukavu, doctorant en relations internationales. Bakanga Ntuali, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Nous recevons Désiré Kiakouima, qui est confrère journaliste. Désiré Kiakouima, bonjour et bienvenue.
Bonjour, expédié, merci.
Donald Trump a pressé samedi d'autres pays d'envoyer des navires de guerre pour sécuriser les détroits d'Ormuz, voie maritime stratégique entravée par la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Deux semaines après son déclenchement, le 28 février, marqué par la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, le conflit ne montre aucun signe d'accalmie. Le Moyen-Orient s'est embrasé, provoquant une flambée de l'or noir, avec le blocage quasi total par l'Iran du détroit d'Ormuz, par lequel transite d'ordinaire 20% de la production mondiale d'hydrocarbures. Les belligérants enchaînent quotidiennement les attaques ponctuées des déclarations menaçantes, avec un bilan de plus de 2000 morts, voulais-je dire, essentiellement en Iran et au Liban, selon les autorités, répétant que les États-Unis ont vaincu et complètement anéanti l'Iran, tant sur le plan militaire qu'économique. Donald Trump a néanmoins appelé sur son réseau Truth Social les pays qui s'approvisionnent en pétrole via les détroits d'Ormuz à veiller à la sécurité de ce passage. Il leur a demandé à veiller à la sécurité de ces passages avec l'aide des forces américaines. De nombreux pays vont envoyer des navires de guerre en collaboration avec les États-Unis pour maintenir le détroit ouvert et sûr, avait auparavant assuré le président américain la veille. Il avait affirmé que la marine américaine commencerait très bientôt à escorter les pétroliers dans ce passage stratégique, espérant que la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres enverront des navires dans la région afin que le détroit d'Ormuz ne soit plus menacé par un pays totalement décapité, a-t-il ajouté. Trou dans le parapluie américain, l'armée américaine a complètement détruit des cibles militaires sur l'île de Karg, située à environ 30 km des côtes iraniennes et qui abrite les plus grands terminaux d'exportation de pétrole brut du pays, selon Donald Trump. 15 explosions y ont été entendues hier samedi, mais aucune infrastructure pétrolière n'a été endommagée, selon l'agence de presse iranienne farce. Le président américain a menacé de cibler les infrastructures pétrolières de l'île si le passage libre et sûr des navires n'était pas rétabli dans le détroit d'Ormuz. L'Iran visera des entreprises américaines au Moyen-Orient si ses infrastructures énergétiques sont bombardées, a répliqué son chef de la diplomatie, Abbas Araghchi. Ce dernier a également appelé les pays de la région à expulser les forces américaines, estimant que le prétendu parapluie de sécurité américain ne les avait pas protégés. Dans la soirée, les gardiens de la révolution armée idéologique de la République islamique ont annoncé avoir tiré une salve de missiles contre les forces américaines stationnées sur la base aérienne Prince Sultan près de Riyad. Cette attaque n'a pas été confirmée par les autorités saoudiennes qui avaient néanmoins fait état auparavant de l'interception des 6 missiles visant Al-Qadj où se trouve la base. Le système radar de l'aéroport international du Koweït a également été touché samedi soir par des drones, ont annoncé les autorités de l'Émirat. Les Émirats arabes unis ont pour leur part revendiqué le droit de se défendre contre l'agression iranienne, mais d'y persister dans leur attitude de retenue avant de chercher une issue à la crise. À l'aube, l'ambassade américaine à Bagdad a été visée pour la deuxième fois après des frappes contre un influent groupe armé pro-Iran ayant fait 3 morts selon des sources de sécurité. L'ambassade a appelé les Américains à quitter l'Irak maintenant. Dans la soirée, une base militaire, il faut bien le préciser, à l'aéroport international de Bagdad, qui accueillait jusqu'à récemment des effectifs de la coalition internationale anti-djihadiste amenée par Washington, a été visée par une attaque des drones d'après 2 responsables de sécurité. Le cours du baril de Brent, référence internationale pour le pétrole, s'est envolé de plus de 42% autour de $100 américains depuis le début de la guerre. En soirée, une frappe israélo-américaine de missiles sur une zone industrielle d'Isfahan dans le centre de l'Iran a fait 15 morts selon l'agence iranienne Fars. La télévision d'État iranienne a ensuite annoncé le lancement d'une nouvelle salve de missiles sur Israël. Pas de problème avec le nouveau GUD au Liban, autre théâtre de la guerre pilonné par Israël qui dit viser le Hezbollah pro-iranien. Les autorités veulent former une délégation pour négocier avec leurs voisins une cessation des hostilités selon une source officielle. De son côté, le mouvement chiite a fait état samedi soir d'affrontements directs avec l'armée israélienne à Qiyam dans le sud du Liban. En 2 semaines d'offensive, les États-Unis et Israël assurent avoir fortement affaibli le pouvoir iranien, chose que le pouvoir iranien réfute d'un bloc. Si des dirigeants de la République islamique ont défilé vendredi en plein cœur de Téhéran, Khamenei, le nouveau GUD suprême qui a succédé le 8 mars à son père blessé dans une frappe, n'est lui toujours pas apparu publiquement. Le ministre américain de la Défense avait déclaré vendredi qu'il était blessé, probablement défiguré. Il n'y a pas de problème avec le nouveau GUD suprême, a assuré samedi le chef de la diplomatie iranienne, assurant qu'il s'acquit de ses fonctions conformément à la Constitution. Il faut le préciser. L'escalade du conflit impliquant l'Iran a une fois de plus mis en lumière la vulnérabilité de l'Afrique face aux chocs mondiaux liés aux matières premières et à la logistique. La progression du Brent vers le $120 le baril, les perturbations du trafic de pétrolier dans les détroits d'Ormuz et l'explosion des primes d'assurance contre les risques des guerres constituent un choc externe majeur pour le continent. Si certains pays exportateurs de pétrole pourraient s'en sortir face à la question, brièvement bénéficier des recettes plus élevées, la réalité demeure accablante pour la plupart des économies africaines, encore largement dépendantes des importations de carburants raffinés, d'engrais et de denrées alimentaires. À Bukavu, il s'observe depuis quelque temps une spéculation dans la fixation du prix du carburant. Selon le constat de votre radio, les prix sont fixés selon la volonté des revendeurs. À certains endroits, un litre s'est négocié entre 3 000 et 3 500 chez les revendeurs communément appelés Kadhafi, alors que quelques jours auparavant, il était possible d'en trouver à 2 600 voire 2 800 francs congolais. Contacté, le secrétaire provincial du club des pétroliers au sud Kivu, Urbain Kangé, affirme que c'est depuis 2 semaines qu'il y a spéculation dans la ville. Urbain précise que cette hausse est justifiée par la guerre au Moyen-Orient, avec notamment la fermeture du détroit d'Ormuz. Désiré Kakouima, jusqu'où ira cette guerre?
Bien, merci pour la question. Jusqu'où ira cette guerre? Ça risque peut-être d'être un autre conflit israélo-palestinien, si l'on y prend garde. Et je me pose aussi cette question en me disant pourquoi seulement lorsque ceux qui étaient des meilleurs amis deviennent toujours et souvent des ennemis. C'est la question que je me pose. Parce qu'entre Israël et l'Iran, c'est une histoire d'amitié d'abord, et puis après, ils sont devenus des pires ennemis. Israël et l'Iran ont entretenu de très bonnes relations dans le passé, c'est-à-dire avant la révolution islamique de 1979. Donc le régime de Shah avant 1979 avait entretenu d'excellentes relations. Je rappelle ici que l'Iran a été le deuxième pays islamique à reconnaître Israël. Lorsque David Ben Gurion proclame l'indépendance d'Israël en 1948, le deuxième pays islamique à reconnaître Israël, c'était l'Iran. Et là, c'était des très bonnes relations entre les deux pays. À cette époque-là, Israël était très intéressé par cette relation parce que ça lui permettait de contrer l'hostilité des pays arabes qui l'entourent. À cette époque, l'Iran aussi bénéficiait de l'expertise israélienne dans la formation de son armée. Et puis, soudain, en 1979, tout change. 79, qu'est-ce qui arrive? C'est la révolution islamique. Les Shahs qui gouvernaient selon un régime monarchique sont remplacés par les ayatollahs. Eux viennent avec et instaurent un régime théocratique. C'est-à-dire, c'est l'islam qui est la religion de l'État. Et du coup, Israël, qui était ami, devient ennemi et est nommé officiellement. Israël devient le Satan, Shaitan.
C'est là que le clan Khamenei accède au pouvoir.
D'abord Khomeini, puis Khamenei. Voilà. Alors Khomeini, qui était aussi un ayatollah, rompt les relations diplomatiques avec Israël, ferme l'ambassade d'Israël à Téhéran et il loge qui ? On chasse la représentation diplomatique israélienne dans les bâtiments de l'État hébreu. On y loge l'OLP, l'Organisation pour la Libération de la Palestine de Yasser Arafat, qui était l'ennemi juré d'Israël, comme nous le savons tous. Alors, et puis, après, les relations commencent à... Bon, non, c'était les ennemis, l'animosité est proclamée entre l'Israël et l'Iran. Et puis on connaît toute la suite, et par après, on va arriver jusqu'en 2002, pour être bref, en 2002, lorsque les pays occidentaux, Israël et les États-Unis, découvrent que l'Iran était en train de développer un programme nucléaire. Là encore, on va plonger dans l'exacerbation de l'animosité entre Israël, États-Unis, disons, et on embarque tout l'Occident derrière, contre l'Iran. Qu'est-ce qui va se faire? L'Iran va créer ses proxys. Les Hezbollah au Liban, les Hamas en Palestine, donc au Gaza, les Houthis au Yémen, tous contre Israël. Et Israël aussi va faire quoi? Avec son expertise de ce service de sécurité, le Mossad, va commencer une campagne d'élimination systématique des scientifiques iraniens du nucléaire. Beaucoup ont péri. Beaucoup d'officiers ont laissé. Alors, jusqu'à arriver maintenant à une... Tout ça, c'était... Il faisait la guerre à travers des intermédiaires, disons. Par procuration.
Justement.
Mais, jusqu'à ce qu'on est arrivé à 2024, les premières confrontations directes entre Israël et l'Iran. Ces confrontations directes, on le sait, ont révélé à la face du monde que non, ce pays avait déjà, même en plus du programme nucléaire, avait développé un programme balistique, des missiles balistiques. Disons ici, ces missiles balistiques sont difficilement arrêtable parce qu'elle change de direction sur la trajectoire, non pas une trajectoire rectiligne. Alors, qu'est-ce qui va arriver par après de la confrontation par procuration jusqu'à cette confrontation directe dans laquelle les États-Unis, certains disent qu'ils ont été impliqués, mais non, c'est oublier l'histoire. Il y a aussi des dossiers sombres entre les États-Unis en particulier et l'Iran. On rappelez-vous l'affaire lors de l'Iran Gate sous le président Carter, je crois si ma mémoire est bonne.
Hein? Jimmy Carter.
Sous Jimmy Carter, l'Iran Gate. Donc, bref, ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui est arrivé, en fait, c'est l'accumulation d'un certain nombre de dossiers, de conflits, de rivalités entre une puissance qui voulait affirmer son indépendance et l'État hébreu qui a, en 2002, je le rappelle, avec ce programme nucléaire, a considéré que c'est l'existence même d'Israël qui est mise en jeu. Parce que avec la présence de ce régime des ayatollahs, qui a considéré Israël comme Satan, et donc eux aussi ne juraient que par la disparition de l'État hébreu.
Voilà. Et au début de la crise, Donald Trump, quand il a annoncé le démarrage de l'opération, il a dit que l'opération n'allait pas trop durer, que ça allait faire juste quelques jours. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça traîne en longueur? Nous sommes déjà à approximativement 3 semaines et les signaux pour une fin imminente de la crise ne sont pas visibles.
Je pense que Trump, dans sa mégalomanie, a sous-estimé l'Iran. Il a cru qu'il ferait encore l'opération de Venezuela, alors qu'en réalité, il y avait deux situations extrêmement différentes. L'Iran avait... On découvre que malgré le bombardement depuis 3 semaines, on ne parvient pas à arrêter l'Iran. On ne parvient pas à obtenir la capitulation iranienne parce qu'ils étaient déjà suffisamment avancés dans leur programme balistique, dans leur programme nucléaire, même s'ils n'avaient pas encore mis au point l'arme. Mais ils étaient sur le point de mettre au point l'arme nucléaire. Maintenant, 3 semaines après, on constate que non. Non seulement ils ont développé ces programmes balistiques et nucléaires, et ils ont aussi développé une technologie qui rend le monde aujourd'hui admiratif pour certains vis-à-vis de l'Iran, ce sont ces drones, les drones Shahed. Les drones Shahed, rappelez-vous dans la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, ce sont les Iraniens qui ont fourni aux Russes la technologie pour la construction des drones. Ils ont remis les Shahed aux Russes, et les Russes l'ont un peu perfectionné, mais c'est les Shahed. Alors, ils découvrent qu'ils ne parviennent pas à vraiment détruire l'Iran de manière à ce que le pays se rende comme il veut, comme l'a dit le président américain. Le pays ne se rend pas parce que ils ont construit, ils se sont préparés pendant des années. Ils se sont préparés pour qu'ils savaient qu'un jour ou l'autre, les grandes puissances occidentales l'attaqueraient. C'est pour cette raison qu'ils ont plus construit des fortifications sous terre pour cacher leurs armes. C'est vrai que le bombardement israélo-américain ont détruit beaucoup de lanceurs de missiles, mais ils n'ont pas tout terminé. Parce que jusqu'à ce soir, jusqu'à hier soir, Tel Aviv était sous le feu.
Justement.
Malgré les drones, les dômes de fer, comme ils l'appellent.
Voilà.
Bref, on a sous-estimé un petit peu, à mon sens, les capacités militaire de l'Iran, et voilà où ça nous amène.
Joseph, si la crise se prolonge, quelles sont les conséquences envisageables? Allons-nous tout droit vers un autre choc pétrolier?
Le choc pétrolier, bon, oui, probablement. Si on pourrait avoir un choc pétrolier si la crise se prolonge, et pire que celui de 1973. Mais si elle se prolonge de quelle façon? Je pense que dans la guerre asymétrique que mène l'Iran, et c'est effectivement, elle joue sur les prix du pétrole pour que cela ait une conséquence sur les économies qui sont énergétiquement trop, comment dire, des économies qui ont excessivement besoin d'énergie, même si elles ont elles-mêmes, comme les États-Unis, des ressources ou des réserves énergétiques et une production qui peut soutenir leur économie, mais cela aura nécessairement un impact sur l'économie mondiale, ce qui conduira aussi à une inflation qui frappera le consommateur qui se révoltera contre le pouvoir, et donc à la fin c'est l'Iran qui aura aussi influencé le cours de choses. Oui, on pourrait avoir un choc pétrolier, mais je crois que tout cela est à voir plus, oui, au niveau économique, mais surtout sur les conséquences. Parce que vous me posez la question de savoir si ça continue. Aujourd'hui, l'Iran, comme on vient de le démontrer, comme c'est très bien dit, l'Iran montre des capacités de résistance très avancées. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment là-bas? Quelle est la manière de faire, si ça va trop loin, quelle est la manière qui reste? Si c'est pas une bombe atomique, ou par exemple, comment dire, voilà, il a dit qu'il mobilise maintenant tous les Occidentaux pour que
il libère
les détroits d'Hormuz. Mais ça se fait comment? Quel est l'autre prix qu'il faut faire payer à ce peuple qui se montre si résilient comme ça? Je sais pas, j'ai peur peut-être pour ce peuple, puisque à la fin de compte, c'est fou tout ça pour des ressources et tout ça, on assassine des gens. Parce que c'est, quand je vois ce que nous subissons et que je me dis que d'autres sont sur des bombes aussi, de la même façon, quand vous me posez la question de savoir jusqu'où ça va aller, encore où aller, si ce n'est pas à revenir à la table des négociations. Alors quand même, si l'aîné me permet, je vais un peu, je veux compléter son propos, parce que en l'écoutant, j'ai compris effectivement qu'il a tout ce qu'il a dit est correct et vrai, mais je voudrais un peu qu'on n'ait pas tendance à montrer seulement que c'est l'Iran qui est fautif, parce que si on part de 1953, on se souvient qu'en 1953 les Américains ont fait un coup d'État en Iran. Avant que l'on ait la révolution de 79, ce sont les Américains qui commencent en 73 et qui, avec le MI6 britannique et la CIA, qui mettent en place un régime qui leur est favorable. Et parce que ceux qui étaient là avaient nationalisé le pétrole, avaient le British Petroleum, qui est une entreprise créée déjà en 1903. Voilà, en fait, je parle de ça puisque je pense à mon pays, en fait. je pense à l'enjeu de ressources chez nous. Et je me dis, si un jour on se dit qu'on a droit d'être souverain chez nous et que quelqu'un d'autre le refuse comme on l'a refusé au Venezuela, est-ce que cela implique qu'on a droit d'être assassiné chez soi? Donc en ces endroits, il y a ces régimes-là que les Occidentaux mettent en place. Et ce régime-là, ça explique la révolution islamique aussi. Il oublie le contexte dans lequel il est en train de mener ses réformes. Quand vous êtes dans un pays conservateur, vous n'allez pas venir avec un très fort progressisme. Vous n'allez pas dire, voilà, parce que l'Iran entre 53 et 79, c'est un pays qui s'occidentalise trop. Même dans le mœurs, même dans les pratiques, et cela gêne beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas, qui ne s'identifient pas dans ça. Et c'est eux qui vont faire la révolution. Deuxièmement aussi, ils voulaient que leurs ressources bénéficient d'abord et avant tout à leur nation et non. En fait, c'est presque le contexte congolais. Et donc, c'est comme ça que l'on va avoir des gens qui vont faire la révolution. Le deuxième petit ajout que je voudrais faire, c'est que on a une ambition hégémonique régionale israélienne très marquée. C'est peut-être Israël qui se veut plus le roi du Moyen-Orient, que ça gêne les autres aussi, qui voudraient égaliser. Le programme nucléaire iranien, je pense qu'il n'était pas nécessairement pour détruire Israël, mais c'était pour égaliser les rapports de force au niveau régional, qu'il y ait un peu de respect. Et Israël, lui, ne veut pas de collaborateurs qui ne soient pas esclaves, entre guillemets, voilà. Et ça, peut-être, c'est gênant aussi pour des gens qui, pour une civilisation millénaire, multimillénaire d'ailleurs, cela gêne à un certain moment et qui voudrait s'affirmer aussi pour qu'ils ne finissent pas comme les autres. Et donc voilà, ça, c'était là les deux petits ajouts, mais pour le reste, voilà, je souhaite pas que tout ça continue. Personne ne voudrait voir les siens mourir comme ça. Et oui, ça aura des conséquences économiques, mais voyons d'abord les conséquences humaines.
Voilà. Bakanga, Toali, comment vous justifiez le silence de l'Occident de façon globale et de l'Afrique face à ce que subissent certains pays dans le Golfe aujourd'hui, principalement l'Iran?
Merci beaucoup pour la question. Je commence d'abord par dire que lorsqu'on analyse les faits internationaux, il y a plusieurs paradigmes, c'est-à-dire plusieurs théories sur lesquelles on peut se baser. majoritairement, on peut faire allusion au réalisme ou au libéralisme. Alors, lorsqu'on analyse dans le paradigme réaliste, on fait allusion au rapport des forces. Et dans ces contextes-là, la guerre est considérée comme une continuation de la politique par d'autres moyens. Et cela justifie les causes qui ne sont pas relayées par les médias. Lorsqu'un État puissant cherche à contrôler un État, il ne peut pas dire qu'il les contrôle pour accéder à ses ressources. Il doit trouver un motif, un justificatif pour légitimer son action ou pour légitimer ses actes. Alors, de l'autre côté, le modèle libéraliste, on fait allusion au respect des normes, on fait allusion au respect du droit et de tous les principes juridiques qui sont établis au niveau de la charte. Alors, les comportements actuels des États européens, des États africains, est d'abord un comportement qu'on peut apprécier politiquement. Politiquement, les Européens sont un peu paralysés parce qu'ils dépendent aussi de la prise en charge sécuritaire américaine au travers de l'OTAN. C'est toujours difficile pour quelqu'un qui est protégé par un puissant que lui de revenir et de condamner ces puissants là-bas lorsque ces puissants sont en dehors de la plaque. Les Africains, pour leur part, sont beaucoup liés aux Américains par des partenariats économiques, par des partenariats militaires, par des partenariats stratégiques. Et aussi, ils sont incapables de se tenir du côté de du droit international parce qu'ils risquent de briser ces partenariats qui leur sont chers au niveau économique. Vous avez entendu la fois dernière comment Donald Trump a enfin signé l'accord ou relancé l'accord de la GOA qui permet aux Africains d'exporter leurs biens sans barrière tarifaire aux États-Unis. Ça, ce sont des avantages qu'on donne aux États. Et ces avantages ont pour objectif de maintenir une sorte de coopération. Et lorsqu'on est en coopération comme ça, lorsque c'est une coopération verticale entre un État puissant et un État faible, il y a toujours une sorte d'allégeance qu'on prête à l'État qui aide. Alors, au niveau juridique, ça ne s'explique pas parce que les Occidentaux sont les champions de la moralisation lorsque les autres États se comportent de façon à violer le droit international. Vous allez suivre qu'aujourd'hui, il y a une sorte de poids des mesures. Lorsque c'est la Russie qui attaque l'Ukraine, tous montent au créneau, ils condamnent, ils évoquent les droits qui ont été violés, ils évoquent la charte. Mais comme c'est les États-Unis, ils trouvent des mécanismes pour justifier cela. Par exemple, avec la justification pour une légitime défense préventive.
Une théorie.
Au niveau juridique, la charte, elle est claire. L'article 51 de la charte de l'ONU parle d'une légitime défense lorsqu'on est attaqué, lorsque la menace est imminente. Mais on ne peut pas anticiper une menace. Ça n'existe pas. Mais le droit international en relation aux internationales est considéré comme aussi un outil de légitimation qui est instrumentalisé par celui qui est le plus puissant. Donc, ce comportement est aussi un comportement qu'on peut justifier par les alliances. Les alliances sont souvent des rapports de soumission ou des rapports de légitimation ou des rapports de domination où les États peuvent accepter de laisser certains principes pour conserver les relations avec l'État puissant ou l'État hégémon.
Seul, par exemple, le gauche Pedro Sanchez de l'Espagne ouvre sa bouche pour condamner ouvertement la posture des États-Unis face à l'Iran. Il est seul contre le monde entier, malheureusement. Et certains chercheurs prétendent que cette posture viole le droit international et la charte des Nations Unies. Êtes-vous de cet avis-là?
Non. De toute façon, chaque État est souverain. En fait, il y a un principe de souveraineté au niveau du droit international et d'indépendance. Chaque État est souverain et il n'existe pas de structure au-dessus des États pour leur obliger une position. La position espagnole, elle est justifiée. Quand vous suivez Pedro, il dit qu'en 2003, vous nous avez entraînés dans une guerre. Vous avez dit qu'en Irak, il y avait des armes de destruction massive. Vous êtes parti là-bas dans une intervention. Vous avez tout fait jusqu'à aller à
assassiner le président Ben Laden, quoi.
Non, le président
Saddam Hussein, justement.
Mais après,
l'accusant d'entretenir Al-Qaïda.
Après, ça s'est avéré qu'il n'y avait aucune arme. La déclaration de Colin Powell devant l'ONU était fausse. Et donc, c'était une guerre qui n'était pas justifiée. Et à la longue, on s'est rendu compte que les objectifs étaient des contrôles des ressources.
Voilà.
Alors aujourd'hui, avec l'Iran, on dit que l'Iran avait entretenu un programme nucléaire. Il y aurait environ 400 kg d'uranium enrichi à 60%, et que si on continuait cet enrichissement, l'Iran pouvait se doter d'environ 10 ou 12 têtes nucléaires. Ça, ce sont des présomptions, mais qui ne sont pas encore justifiées. L'Iran avait signé le traité de non-prolifération en 1968, qui a été ratifié, je pense, en 1970. L'Iran travaillait avec l'équipe de l'agence
L'AIE,
oui, sur le développement de ces nucléaires, parce que c'était un programme civil. Alors, l'inquiétude d'Israël, comme l'a dit les collègues, vient du fait que psychologiquement, les États sont soumis à une pression qu'on appelle la pression du dilemme de sécurité. Et ce dilemme de sécurité est tel que lorsque un État qui est hostile à la politique d'un État tiers développe son arsenal nucléaire ou son arsenal militaire, cela laisse penser que cet arsenal-là viendrait attaquer ou viendrait insécuriser l'autre État envers lequel ils n'entretiennent pas de relations. Et c'est sur cette base que moi je présume que l'Iran voulait égaliser pour maintenir un équilibre de force, parce qu'aujourd'hui Israël, lui qui n'est pas signataire de ces traités, dispose des têtes nucléaires. On imagine qu'on pourrait avoir entre 9 et 15 têtes nucléaires en Israël qui sont nécessaires pour la destruction totale d'un État comme l'Iran.
Voilà. Désiré, au-delà de l'anéantissement de la puissance nucléaire de l'Iran, bon, c'était un des arguments avancés par Donald Trump. Il y a eu un second argument, comme quoi le régime en place violait les droits des citoyens et consorts. Considérant que le guide suprême, Khamenei, a été déjà assassiné, pourquoi les États-Unis et Israël s'obstinent à maintenir la pression sur l'Iran aujourd'hui?
Oui, comme l'ont dit les débatteurs autour de cette table, je crois que c'est ça. C'est que... on cherche à supprimer l'hégémonie de l'Iran. On cherche absolument à l'anéantir, parce que si l'Iran disposait de la... Supposons que si l'Iran venait à mettre au point son arme nucléaire, qui s'aventurerait à aller attaquer l'Iran? Personne. Si l'Iran continuer avec son développement de programme balistique, mais on réfléchirait par deux fois. Même Israël réfléchirait par deux fois avant d'attaquer l'Iran. Le problème que je constate dans ça, c'est que le monde a toujours été dirigé par la force du droit. Maintenant, le deuxième mandat de Trump, c'est le droit de la force. Malheureusement, comme l'a dit un général à la retraite de l'armée française, Pierre de Villiers, nous sommes dans le règne du droit de la force. Et je crois que le président Trump ne fait pas mystère de ça. Quand il est en train maintenant de créer une structure rivale aux Nations Unies, il ne fait pas mystère. Il appelle tous les dictateurs, tous ces hommes forts. Il a besoin des hommes forts. Il n'a pas besoin d'institutions fortes. Non, c'est pourquoi il joue aujourd'hui pour l'affaiblissement des Nations Unies. Donc, tout ce que l'Iran est victime, moi je considère victime de ses intentions, de l'affirmation de son indépendance. C'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, dans ce monde de Donald Trump, il faut être fort. Il faut être fort. Vous n'êtes pas fort, et d'alio, comme disent les Quinois. Vous n'êtes pas fort, vous disparaissez. Maintenant, si vous encore vous cherchez à devenir très fort, les très forts sur toi vont dire non, 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 monsieur, vous en faites un peu trop. C'est ça l'ambiguïté dans laquelle le monde vit aujourd'hui. L'Iran a voulu s'affirmer comme pays, comme nation, comme puissance régionale. Mais il a eu le malheur. Non, prof, je n'ai pas dit que c'est l'Iran qui est toujours fautif. Non, je n'ai pas dit ça. Oui. Mais, en réalité, l'Iran, comme vous l'avez dit, je suis parfaitement d'accord avec vous, C'est, il y a quand même des appointances avec la situation de la République démocratique du Congo. Hein? Mais l'affirmation de son indépendance, comme il est l'ennemi du chouchou des Américains, Israël, eh bien voilà, l'Amérique s'en mêle et je crois que c'est... Non, je crois qu'on va voir, l'Iran va devenir un nouveau Gaza.
Désiré, vous avez fait allusion à la préparation minutieuse de l'Iran avant l'entame de cette guerre. Vous avez fait allusion aux proxys qui ont été installés, que ce soit au Yémen, au Liban et consorts. Mais d'où puise, où Iran puise son énergie, considérant que, bon, certains alliés qui devaient apporter beaucoup plus de la puissance à l'Iran, bon, certes, ne sont pas impliqués directement aux côtés de l'Iran dans cette guerre. Mm-hmm. Je parle de la Chine,
de la Russie,
de la Corée du Nord et consorts. Mais exactement où est-ce que l'Iran puise sa force et qu'est-ce qui justifie cette posture de ces États-là qui ne manifestent pas directement leur ralliement aux côtés de l'Iran dans cette crise?
C'est ça le malheur pour l'Iran, c'est-à-dire de s'être allié à des puissances, disons, de seconde zone, non, c'est trop le mépriser. Mais peut-être lié à des pays qui, eux aussi, ont des difficultés chez eux. Disons, le principal allié de l'Iran, c'est la Russie. Mais la Russie aussi est engagée sur le terrain ukrainien, ne vous en faites pas. Mais certaines informations rapportent que la Russie apporte un soutien.
Décisif d'ailleurs.
Décisif. Et avant-hier, Donald Trump l'a effleuré en disant oui, parce qu'il ne veut pas, se mettre à dos Poutine. C'est ça le problème. Il a dit, écoutez, oui, je pense que Poutine lui donne quelques informations sur nous. Voyez-vous, ils sont en train d'aider, mais pas
de façon directe.
Faut pas froisser l'Amérique, mon cher ami. C'est la super puissance.
Voilà. Merci beaucoup. Joseph, nous avions appris déjà que, selon plusieurs rapports, l'Afrique apparaît comme une source potentielle des terres rares pour les États-Unis, qui ne disposeraient que de 2 mois des réserves de ces matériaux essentiels, disons, dans leur stock de défense, alors que la guerre avec l'Iran s'intensifie davantage. Certains pays, y compris le nôtre, la République démocratique du Congo, le Botswana et l'Afrique du Sud, sont en alerte comme fournisseurs alternatifs clés en terres rares et certains minéraux stratégiques, notamment le cobalt, le lithium et consorts. Quel rôle l'Afrique pourrait jouer avec cette dimension dans la crise actuelle? Nous apprenons que les États-Unis dépensent énormément, approximativement à 6 jours de la guerre, ils étaient à plus de 11 milliards de dollars investis dans les dispositifs de défense, les drones, les appareils flottants et tout le reste. L'Afrique peut jouer quel rôle dans cette crise qui prend une allure assez inquiétante?
L'Afrique va jouer un rôle de celui qui va déterminer qui gagnera la guerre qui a commencé. En fait, nous sommes en train de commencer une nouvelle ère. On l'a déjà dit, la mort de l'ONU, ainsi de suite. Mais tout cela serait trompeur si on n'allait pas au fond de choses pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement et qui conduit à cette folie que l'on voit à travers Trump et qui conduit à cette... C'est comme un jeu d'échecs où les puissances s'organisent, ainsi de suite. Heureusement, on l'a déjà dit ici, sur ces plateaux, je ne vais pas y revenir encore à fond. Mais je rappelle, pour répondre bien à la question, que le monde vit une transition de phase. L'ordre post-1945 qui a établi l'hégémon américain ou occidental, d'abord par sa puissance financière, j'insiste sur l'aspect financier, parce que le système et le régime financier qu'il a mis en place est fissuré dans ses bases par la simple raison que les Occidentaux, à partir de la grande financiarisation, ils ont découplé leur base productive avec leur... Donc ils ont une richesse qui ne correspond pas, ils ont une richesse théorique qui ne correspond pas à leur capacité productive réelle. Ils ont délocalisé des entreprises qu'ils ont conduites en Chine. La Chine s'est mise à apprendre de cela. La mondialisation a joué non seulement à la faveur des Occidentaux, mais aussi à leur défaveur, puisque la Chine a émergé ensuite comme une puissance technologique et qui a eu une bonne organisation et donc une capacité en soi qui aujourd'hui est démontrée. La Russie a appris de ses erreurs de l'URSS, s'est reconstituée après la venue de après Eltsine et le reste, et Russie, elle a émergé. L'Iran, attention, c'est pas une nation seulement, elle est multimillénaire. Vous venez tout de suite poser la question pourquoi elle résiste, mais c'est une civilisation. Ils ont une capacité organisationnelle très forte, et puis c'est une nation technologique. Et donc, elle a émergé. À un moment, il s'est rendu compte que les pétrodollars nés du choc pétrolier de 73 profitaient essentiellement aux Occidentaux. Alors, on dit, dans la relation internationale, le prof en dira mieux, qu'il y a un les États-Unis financent leur déficit intérieur par le déficit extérieur. Puisque le monde a grandement besoin du dollar et que eux, c'est eux qui donnent le dollar, ils peuvent en produire autant qu'ils le peuvent sans subir l'inflation, parce que c'est le monde entier qui supporte l'inflation. Et cet ordre-là post-45 s'est mis à être contesté. Il faut comprendre les origines de tout ça. Donc je viens de parler de la base productive qui a été déplacée. Alors les Occidentaux ont externalisé leur entropie, bref, les problèmes environnementaux, les problèmes ainsi de suite, ce sont les autres qui portent ça. Les autres ont des petits salaires de rien du tout. Quand on avait la Chine qui était encore l'espace industriel qui polluait trop, ainsi de suite, c'était pas par ses propres capacités, c'était par les capacités productives occidentales qui étaient externalisées. Mais tout cela a émergé et vers une situation où les Occidentaux, n'oublions pas qu'il y a eu la crise de 2008, la crise financière de 2008, qui a dit déjà quelle était la situation du régime ou de la situation mondiale. Je parle de la finance parce que c'est les nerfs et le cœur de la guerre. Vous avez entendu les Chinois, les Iraniens dire que bon voilà, ceux qui vont acheter le pétrole en yuan chinois pourront le prendre chez nous. Ou encore, ce qu'on a reproché au Venezuela, c'est qu'il commençait à vendre son pétrole en dehors du système dollar. Et les BRICS, dans leur attaque dans la contestation de cet ordre occidental, ils voulaient déjà mettre une monnaie alternative dans laquelle tout ça pourrait s'échanger. Et je rappelle que c'est le cœur de la puissance occidentale, le fait que c'est sa monnaie qui servait de monnaie d'échange pour tout le reste. Et tout cela était en train d'être contesté maintenant pour s'imposer, pour dire que vous n'allez pas aller plus loin que ce que vous voulez, et pour démontrer à tout le monde que bon voilà, vous allez faire ceci ou cela. Les Occidentaux font ça. Maintenant, dans ce cadre-là, parce que c'est de cela qu'il s'agit, quel est le rôle de l'Afrique ? Dans cette transition de phase, vous comprenez que ce sont des puissances qui se mettent en choc et qui sont tous en train de courir derrière une seule chose. Les Occidentaux, ils veulent relocaliser. C'est pour cela que j'ai parlé de la délocalisation des entreprises. Les entreprises délocalisées étaient en Chine. Et donc, la chaîne des valeurs, la chaîne des matières premières, de la mine jusqu'au produit fini, des produits pas finis mais raffinés, qui seraient utilisés par des entreprises, étaient tournés vers l'Orient. C'est la Chine qui était le cœur vraiment du raffinage de ces matières premières. Les Occidentaux aujourd'hui qui veulent elles-mêmes se réindustrialiser ont donc besoin des matières premières qu'ils trouvent de la mine jusqu'à l'usine, au lieu de raffiner jusqu'au produit fini. Parce que les Chinois ont verrouillé les circuits.
Ce sont les patrons de la chaîne d'approvisionnement.
Ce sont les patrons de la chaîne d'approvisionnement, ainsi de suite. Et où est-ce qu'ils vont trouver ces matières premières? C'est essentiellement en Afrique. Et c'est pour cela qu'ils sont en choc même au Congo aujourd'hui, là. Tout ce que nous vivons a de loin ou de près un lien avec cette histoire là-bas.
C'est-à-dire que l'accord ou le deal minier qui a été signé avec la RDC,
ça a un lien direct. Oui, nous pensons que c'est pour la paix, ça n'a rien.
Mais les Américains sont en train d'anticiper les événements.
Tout à fait, ils l'anticipent, ils veulent se réindustrialiser, pour cela ils ont besoin de ressources. Vous voyez, les Européens étaient partis signer un accord avec le Rwandais pour dire qu'ils vont être leur partenaire dans la fourniture fourniture de ces terres rares, ces fameuses terres rares. Les, vous voyez un peu ce qui se passe actuellement dans l'espace AES, où il y a aussi des ressources qui sont visées. Bref, nous, vous avez dit quel est le rôle de l'Afrique, où ça, il sera très déterminant, mais il sera aussi l'attitude ou les conséquences sur nous seront conditionnées par l'attitude que nous allons avoir face aux gens qui viendront vers nous. Je vais donner un petit exemple et je finis par là. Regardez par exemple la question du pétrole. Le Nigeria vient d'annoncer qu'il vient de suspendre certaines exportations de, les importations de, du pétrole et il donne le monopole à Dangote avec son entreprise. Vous savez que cela fait, dit, les Nigériens disent qu'ils vont gagner à partir de ça 10 millions de 10 milliards, ils vont épargner 10 milliards de dollars par an. Ça, je dis pour illustrer un peu cette transition de phase dans laquelle se trouve le monde et comment les Occidentaux, eux, interprètent ça. 10 millions de dollars, c'était à la faveur de qui? Mais des Occidentaux, parce que tant qu'on a, on ne raffine, nous, 10 milliards, on ne raffine rien, on ne fait aucune valeur, toute cette valeur-là est concentrée au niveau chez les autres. Maintenant, vous dites, nous coupons ça. C'est ce que la Chine a fait, c'est ce que l'Iran a fait. Cette indépendance, cette souveraineté, cette volonté de s'affirmer aussi. Et nous, les Africains, on doit être capables de faire ça. Je rappelle, je finis par là, dans le NSSM 200, lisez le NSSM 200, Henry Kissinger, 1974, il dit la croissance de la population dans les pays en développement est une menace à la sécurité nationale des États-Unis. Justification, parce que si ces gens là-bas deviennent autonomes de plus en plus et nombreux, ils vont utiliser des ressources dont nous on a besoin pour nos industries. Vous voyez, ça veut dire quoi? Donc, ils ont besoin de ces ressources là-bas et qu'est-ce qu'ils recommandent maintenant? Il faut des politiques qu'ils vont appeler planning familial, mais en fait c'est régulation de la population. Des guerres, ainsi de suite, tout ce qu'on va voir après. Donc, NSSM 200,
visé là. Des gouvernants africains.
Et ils doivent s'unir, s'organiser, négocier en bloc. Arrêtez de se diviser, je le disais encore, je pense, un de ces dimanches ici. On ne doit pas servir d'intermédiaire, de mercenaire contre son propre frère. On ne peut pas venir dans un pays voisin, dire voilà, on va vous donner ceci, aller attaquer et détruire l'autre. Si les Iraniens, les pays autour de l'Iran, on a vu cette tentative là-bas, on a voulu mettre la Turquie contre l'Iran, on a voulu mettre les Turcs, l'Arabie Saoudite, l'autre pays, l'Azerbaïdjan, ainsi de suite, parce que les Kurdes, vous voyez, les Kurdes ont été à un moment voulu être armés pour aller être... Donc les gens qui veulent que vous combattiez entre vous, vous vous entretuez, vous, pour leurs propres intérêts. On devait s'unir, avoir un agenda sur les terres, les pays qui ont des terres, comme vous venez de les citer, le Botswana, l'Afrique du Sud. Et la RDC devait avoir un OLEP, vous voyez, un OLEP de miniers, ouais. Des miniers pour négocier ensemble la Tanzanie. On devait avoir un agenda panafricain sur tout ça, et peut-être ça nous aiderait. Parce qu'on sera décisif dans cette question.
Voilà. Nous l'espérons bien, donc à nous de nous préparer en conséquence. Malimo, au-delà des conséquences économiques, cette crise peut-elle impacter autrement le continent africain, et principalement la RDC?
Merci beaucoup pour la question. Je reviens également sur l'intervention du collègue qui est d'une très bonne qualité. C'est mieux de comprendre que dans les relations internationales, les États n'ont pas de sentiments. Donc, il n'y a pas d'État frère, il n'y a pas d'État sœur. Ce qui compte, c'est l'intérêt. Et les Américains, les Occidentaux, quand ils agissent pour leur intérêt. D'abord, ils peuvent utiliser d'autres États, ils peuvent utiliser des partenariats, mais l'objectif ultime, c'est d'atteindre leur intérêt. Raison pour laquelle les NEA relevaient l'aspect-là de la puissance. Lorsqu'un État puissant domine ou impose son hégémonie, cet État a toujours tendance à empêcher l'hégémonie ou la progression d'autres. C'est d'ailleurs un auteur antique qui l'a bien expliqué, Thucydide, dans une œuvre sur la guerre du Péloponnèse, où il explique comment les puissances établies n'admettent pas qu'il y ait l'émergence d'autres. Et ils font tout pour empêcher. Le collègue a évoqué la question de la monnaie, c'est la question qui est la question névralgique même. On ne peut pas le dire à la dure, c'est difficile. Même Trump qui est entre guillemets gougnafier diplomatique, il ne peut pas aller directement à la radio pour dire nous allons attaquer l'Iran parce que l'Iran veut veut détruire le système, veut s'attaquer à notre système monétaire établi parce qu'il y aura des ressources dont nous avons besoin. On peut toujours utiliser des moyens pour dire que non-respect des droits de l'homme. Mais est-ce que les gilets jaunes qui étaient en France, est-ce qu'on a constitué une coalition pour aller attaquer la France parce qu'il y a des gens qui militaient pour leur liberté? Donc il y a toujours des questions pour lesquelles les raisons authentiques ne sont pas relayées. Les États utilisent toujours des moyens qui sont acceptables par la majorité. Et souvent, malheureusement, ce sont les médias qui sont utilisés. Alors pour la RDC, moi je ne suis pas optimiste et je ne vais pas vendre une image ou vendre de l'espoir. Je ne vais pas non plus briser les cœurs de ceux qui espèrent. Mais tout dépend de la nature du régime interne, de sa capacité à négocier. Si vous avez des gens qui ne sont pas ou qui ne seront pas incapables de négocier et de bien déterminer l'intérêt du pays, on peut vendre toutes les ressources possibles, on peut avoir des partenariats et ça ne va profiter à personne. Parce que le système n'est pas en mesure de négocier un contrat, de négocier des accords capables de conduire à l'émergence ou à l'élévation dimensionnelle du niveau de la population. Alors, des résultats ou des scénarios peuvent être envisagés. Le premier scénario, c'est une bonne négociation où nous sommes gagnants-gagnants. Parce que nous avons une opportunité d'industrialisation. Ce qu'il a dit est vrai. Parce que lorsqu'on extrait les ressources, lorsqu'on extrait les matières premières, les produits de base, actuellement, ça ne peut pas aller directement dans un état super industrialisés, qui sont déjà au niveau de la quatrième génération de développement. Ils n'ont pas des industries pour transformer. Ils ont juste besoin des choses déjà transformées dans d'autres états pour aller assembler. Alors, s'ils veulent se réindustrialiser, donc ils auront aussi besoin de ces matières-là. Et les matières, ils vont les trouver où? Ici, chez nous. Et venir acheter les matières ici, chez nous, et les exporter là-bas, ce n'est pas la meilleure nouvelle qu'on puisse imaginer. Parce que pour notre propre développement, nous devons aussi transformer au niveau local. Il y a pas un État qui puisse développer économiquement sans avoir transcendé les phases de développement, notamment l'extraction. On n'a même pas ici des usines ou des industries semi-industrielles pour proposer des produits semi-finis. On n'en a pas. Si on continue à être une industrie extractive, on va se heurter à ce qu'on appelle la détérioration des termes d'échange. Donc, ils vont venir acheter à bas prix, à bas prix nos produits, ils vont aller les transformer et demain, nous allons encore acheter les produits finis très chers. Donc, nous aussi, nous ne pouvons pas prendre le fait que les gens viennent prendre nos ressources comme une opportunité. Ce qui devait nous préoccuper, c'est de trouver des moyens de négocier pour qu'ils viennent aussi installer leurs entreprises ici, au moins pour une partie de la production. Deuxième chose, c'est d'avoir une structure solide, une chaîne de commandement solide, des gens réfléchis et rationnels qui savent qu'au-delà des contrats qu'on peut signer, ils ont un devoir historique. Nous voyons souvent dans nos États africains des gens qui sont au pouvoir, qui s'enrichissent, qui signent des contrats, qui sont corrompus. Et après, c'est la population qui sous-passe, c'est la population qui va payer. Le deuxième scénario, c'est au niveau diplomatique. La guerre en Iran, la guerre en Occident peut faire en sorte que les problèmes africains ne soient plus les problèmes prioritaires. Tous les yeux seront braqués sur les grandes puissances. Vous avez appris que là-bas, par jour, les Américains dépensent environ $1 milliard dans les combats. Pendant que nos guerres ici sont encore des guerres qui ont un niveau technologique rudimentaire. Donc, ce qui va préoccuper les puissances, c'est la guerre la plus sérieuse. C'est là qu'ils vont aller concentrer leurs énergies. C'est là qu'ils vont aller concentrer leur attention. Pendant que nous ici, bon, ça sera peut-être des guerres de reléguées au second rôle. Pourtant, c'est nous qui avons plus de victimes qu'eux. Même si nous ne faisons pas face à des confrontations des hautes technologies, mais les gens qui meurent ici sont plus nombreux. Là, on parle de 2000, mais est-ce qu'ici, nous comptons par millions les gens que nous avons perdus? Donc, nous avons un devoir d'abord interne, de nous renforcer au niveau interne, de ne pas toujours attendre que tel ou tel autre vienne nous secourir. Deuxième chose, c'est d'ouvrir notre capacité opérationnelle locale. La RDC n'aura aucun essor de développement venant de l'extérieur. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, tous ces États-là cherchent à garantir leurs intérêts. Si nous aussi nous voulons nous développer, nous devons concevoir notre politique interne de développement et avoir une classe politique crédible.
Voilà.
C'est tout ce qui peut nous aider.
Désiré, se référant au contexte congolais, miné par une gouvernance à remettre en cause, par la situation sécuritaire du moment, est-ce que l'espoir est permis?
Je le dis comme de la même manière que le prof. Je ne veux pas briser les cœurs de ceux qui espèrent.
Oui.
Et non plus, je ne veux pas sombrer dans l'optimisme. L'espérance peut-être
divine.
Voilà. Hein? Mais en réalité, je trouve le problème se trouve dans les hommes qui animent nos institutions en Afrique, partout. Ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo. Vous allez voir, dans les négociations dont vient de parler le prof, il l'a très bien dit, il l'a très bien expliqué, dans les certaines négociations internationales où l'avenir du pays est en jeu, vous allez trouver que nous sommes ridicules. Vous voulez négocier, par exemple, que les cobalt soient désormais traités d'abord à Kolwezi. Non pas aller prendre le brut et l'amener ailleurs. Non, ce n'est pas profitable pour le pays. Mais vous allez voir les hommes qui animent nos institutions en Afrique. Ah non, négocions d'abord notre survie politique. Vous allez voir, c'est comme ça.
Vous allez loin, il y a eu une raffinerie qui a été installée ici.
Oui.
Mais dont l'inauguration a été retardée jusqu'à présent.
Jusqu'à la veille de l'inauguration, l'instruction est venue d'en haut pour dire arrêtez. Parce que nous trouvons qu'il y a des proxys de. C'est ça le problème. Parce que nos intérêts, parce que le terme était en vogue au Congo, parce que j'ai toujours retrouvé Nani. C'est ça le problème. Lorsqu'il faut négocier des choses, parlons d'abord du contrat chinois. Parce que discutons un peu de ça. Le contrat chinois, plus de 9 milliards de dollars. Donc, c'est une sorte de troc. Matière première contre route, contre infrastructure, d'une manière générale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était de la surfacturation des infrastructures pour la RDC. J'ai eu le privilège de conseiller du chambre en matière de communication lorsqu'il était gouverneur. Qu'est-ce qui s'est passé? La route qui est partie
de
la place de l'indépendance, donc de la prison, jusqu'à l'UEA.
Jusqu'à l'UEA.
5 km, 13 millions de dollars. Quand est-ce que vous aurez une route de 300 km?
Pour atteindre Kamagnola et aller jusqu'au
Quand est-ce? Donc des choses mal négociées. Vous allez voir, j'étais là, j'ai vu. Ce qu'on demande, quand on négocie par exemple un tronçon routier, qu'il faut réhabiliter un tronçon routier, 200 km. Les Chinois disent, nous pouvons réhabiliter cette route 200 millions. Voyez-vous?
À raison d'un million par kilomètre.
Par kilomètre.
Ça c'est une route bien faite.
Tout à fait.
Standards.
Dans les standards internationaux. 200 millions. Lorsque les dossiers quittent, et ça part au ministère des infrastructures, il y a 250 millions. Il y a 50 millions qui s'ajoutent. Lorsque ça va à l'Agence congolaise des grands travaux, un autre montant s'ajoute. Lorsque ça va chez Kanga, qui chapeautait la structure de la gestion de la coopération sino-congolaise. Et puis, ça devient combien? 400 millions. Et c'est 400 millions qu'on débloque. Les Chinois, ils vont récupérer leurs 200 millions.
Oui.
Et les restes, c'est comme ça. C'est ça l'Afrique. Même dans les grandes discussions pour l'avenir de nos pays, la plupart des fois, ce ne sont pas les intérêts du pays qui sont mis en exergue, en valeur, mais c'est plutôt nos propres intérêts, nos poches, Non, les mots là, j'aime le répéter, s'il vous plaît. A tout, j'ai retrouvé mon propre. C'est ça le problème. C'est partout en Afrique. Nous le disons à Swahili comme ça.
Oui.
Mais dans d'autres pays, c'est la même chose. Donc, nous risquons de rester dans le même cercle vicieux de sous-développement. Mais j'espère, parce que vous avez posé la question, si j'ai l'espoir, bon, vraiment j'ai l'espoir qu'on va changer de classe politique. Hein? Parce qu'actuellement, même dans notre pays, la classe politique, franchement, c'est de la merde.
Voilà. Joseph, quel est le rôle du peuple pour contraindre les gouvernants à assurer leurs responsabilités, bien évidemment en considérant l'intérêt général?
Les aînés ont déjà dit le plus important. Je ne vais pas me donner le luxe de le répéter, mais au moins je veux dire que le rôle de notre peuple, c'est de s'approprier les propos qu'ils viennent de dire. Donc le premier a rappelé qu'il faut se donner une bonne classe politique.
Oui.
Et l'autre a dit qu'il faut que nous constations que la classe politique que nous avons n'est pas à la hauteur de l'histoire. Et les aînés avaient déjà dit aussi qu'il s'est passé une certaine sélection naturelle. Ceux qui ne seront pas s'organiser dans ce contexte, je l'ai bien suivi, seront appelés à disparaître. Quelle est la conclusion logique? La conclusion logique est que, surtout nous qui sommes, on n'est pas encore aînés, on n'est plus enfants, donc on est quand même une génération qui devait être en train de se poser la question sur ce qu'elle fait de ce pays, et tous ceux qui viennent après nous, nous devrions nous poser la question de savoir, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on s'organise? Aucun peuple ne peut changer la trajectoire de son histoire sans s'organiser autour d'un vrai projet. Autour d'un vrai projet. Et il faut identifier nos vrais problèmes. Alors, et c'est peut-être ça aussi mon côté un peu pessimiste, c'est que la crise que nous traversons est là. Au lieu de nous rendre mieux organisés, elle nous décourage. Imaginez une seule fois que les élections ont lieu l'année prochaine. Combien de gens, vous pensez, ils vont facilement s'élever pour aller aux élections? On a suivi les gens au quartier, ils disent, ils sont découragés, déçus par la classe politique. Malheureusement, la vraie attitude devait être comment on s'organise pour remplacer ceux qui ont échoué et nous trouver les meilleures personnes. Et donc je nous encourage et j'espère aussi, comme on l'a dit, il faut espérer, j'espère aussi que ceux qui nous écoutent sauront qu'il y a deux façons de résoudre ces problèmes. Soit on le fait par un coup de force, on remplace toute la classe politique qui est là, soit on s'organise pour une révolution démocratique, mais ça demande de l'organisation. Ah oui. Ça demande que les intellectuels s'élèvent et quittent les bureaux, les centres de recherche, ainsi de suite, et se disent que l'enjeu est existentiel. Ça demande qu'il y ait une convergence des intérêts avec les structures de la société civile, qui doivent éviter aussi que la politique, que leur combat citoyen soit aussi un moyen de... C'est une rente aussi. Et beaucoup d'eux aussi sont des rentiers juste pour accéder au poste de responsabilité et non quelque chose de structuré. Et à nous de structurer un vrai projet sur lequel les gens peuvent s'unir. Et je crois que nous travaillons beaucoup en ce sens là-bas, juste pour que enfin on ait un vrai projet. Un vrai projet au vrai sens du terme. Pas des mots et des promesses, mais une vision civilisationnelle et qui peut nous permettre aussi de nous inscrire dans la course de l'histoire.
Bakanga est revenu sur la guerre en Iran. Elle risque de prendre une proportion au point de faire disparaître de la considération mondiale ou internationale les autres conflits, notamment le conflit qui se vit ici en RDC. Est-ce que vous êtes de cette tendance? Parce que il faut rappeler que la médiation, il y avait une médiation qatari qui jouait le rôle de sapeur-pompier entre le gouvernement de la RDC et l'AFCM-23, les États-Unis qui avaient conclu un accord minier de sécurité avec la RDC et qui a amené sur une même table le président de la RDC et celui du Rwanda, qui est focus aujourd'hui sur l'Iran, même si nous avons suivi Marco Rubio tout récemment dénoncer la violation du cessez-le-feu. Est-ce que cela risque soit d'enliser la crise congolaise ou la maintenir pour une longue durée?
Alors, je suis d'accord avec l'avis de Lené, mais je le nuance seulement pour le cas spécifique de la RDC. La RDC est un pays si stratégique pour qu'il laisse les gens indifférents. Parce que ces gens-là, ils ont besoin de ceux qui se trouvent dans notre sous-sol. Donc je pense qu'en même temps qu'ils seront en train de faire la guerre à la Chine, parce que c'est la Chine qui est visée, en Iran, ce sont les moyens de l'approvisionnement de la Chine. Parce que, comme l'aîné l'a dit, le prof, il a dit que c'est le piège de Thucydide. Une puissance montante, légèrement établie, ne veut pas qu'une puissance montante se retrouve. À un certain moment, il y a le clash. C'est la transition de phase dont nous parlions. Donc, pour s'attaquer mieux à la Chine, on a besoin de ces ressources, de ce pays aussi. Je crois que ça sera très difficile qu'il soit indifférent au Congo. Par contre, maintenant, et c'est ça l'autre aspect, On entend parfois parler du changement de la constitution ou de constitution ou sa modification. Et je pense que tout cela, l'aîné venait de dire que au lieu de négocier les intérêts du pays, on va négocier le maintien du régime. C'est tout ce, attention, hein, tout cela est lié d'une façon ou d'une autre. Quelqu'un peut vouloir mettre quelqu'un qui sécurisera ses intérêts là-bas. Quelqu'un peut vous imposer un dialogue. Vous pensez que c'est pas pour que vous fassiez la paix, mais pour qu'il vous fasse accepter à tous ce que lui veut.
Ça, oui. Nous avons suivi au début des négociations entre la RDC et le M23. Donc, Massad Boulos avait dit ceci. Oui, tout ceci se fera, les accords, bien oui, mais nous aurons besoin d'un leadership capable de mettre,
en application ça, cela. Voilà, ça se complète. Ah. Donc, à un certain moment, ces gens-là, ils ont besoin du Congo. Il faut que nous soyons naïfs pour que nous pensions que c'est pour nous-mêmes qu'ils en ont besoin. C'est pour ce que nous avons. Et il faut effectivement que les conséquences ou l'indifférence... L'indifférence établie, c'est sur nos intérêts. Mais la vigilance qu'ils auront, c'est sur ce que nous avons. C'est à nous d'inverser maintenant la chose, comme vous l'aviez dit dans les négociations. Il faut qu'on soit vigilant sur nos intérêts et indifférent sur leur sort. S'ils vont se battre avec la Chine, qu'ils se battent, mais que nous, on ne sacrifie pas nos générations.
Donc, ils ont besoin de nous parce qu'ils ne disposent que, comme nous l'avions dit, de deux mois de réserves de terres rares pour leur système de défense. Oui. Autant ils vont les épuiser, autant ils auront besoin de venir s'approvisionner en Afrique. Pour clore, Bakanga Mtoali, comment vous entrevoyez l'avenir, nous y revenons toujours, des Nations Unies?
L'avenir des Nations Unies, bon, je ne suis pas pessimiste non plus pour dire que les Nations Unies ont totalement échoué, mais les Nations Unies auraient peut-être besoin d'une réforme, ce qui est aussi difficile à opérationnaliser. Actuellement, les Nations Unies sont efficaces lorsqu'il s'agit des conflits qui ne mettent pas en interaction les grandes puissances qui disposent de droits de veto. Mais pour les grandes puissances, comme la Russie, comme la Chine, comme les États-Unis, cette instance-là se retrouve paralysée parce que ces droits de veto permettent effectivement à ces États de briser toutes les velléités des contraintes contre leurs activités. Donc, à ce niveau, il y a un problème. Mais les Nations Unies n'ont pas encore totalement échoué parce qu'il y a des missions qui ont apporté des solutions efficaces. Il y a des résolutions qui ont abouti à des conclusions et qui ont apporté une sorte de pacification du système international. Mais le grand problème qu'il y a actuellement à ce niveau, c'est pas que les Nations Unies qui sont mises en danger, mais c'est les principes fondamentaux du droit international, les droits de respecter les engagements. Parce que c'est un droit qui est totalement volontariste. Les États n'ont pas de structure. Même les Nations Unies, ce n'est pas une structure pour imposer un choix aux États. Les États qui acceptent de lier leurs responsabilités par la conclusion des accords sont tenus de bonne foi de respecter ces accords. Alors, aussi longtemps qu'il y aura des puissances qui ne respecteront pas ces droits-là et qui l'utiliseraient comme un moyen de légitimer les accords. Parce que si vous suivez Trump, il fait toujours référence au droit international lorsqu'il veut expliquer pourquoi il est parti attaquer l'Iran, parce que l'Iran a procédé à un programme nucléaire sans respecter les prescrits du traité de non-prolifération. L'Iran menace, l'Iran ne respecte pas les droits des citoyens. Donc, il y a toujours un moyen d'utiliser ces droits pour des fins explicatives des actions menées par les puissances. Mais il y a aussi un problème et c'est ça derrière la faiblesse de ce droit, parce que c'est un droit qui est totalement volontariste. Donc, tout dépendra aussi de l'évolution du système politique américain. Peut-être que on peut demain ou après-demain élire un président de la République qui sera attaché à ces droits, comme le fit le cas les années 14 et 18, où le président américain, d'ailleurs, qui a initié même la création de la société SDN, c'était un professeur de droit constitutionnel qui était beaucoup attaché aux droits et qui a pensé que ces droits allaient aider les États à catalyser leur rapport. Mais tout dépend du système, tout dépend de la compréhension, tout dépend aussi du sérieux que les gens accordent à leurs propres engagements. Donc, avec ça, les Nations Unies peuvent émerger et continuer à vivre. Mais la réforme, elle serait en tout cas importante. Au niveau du Conseil de sécurité, élargir les droits de veto, ce qui est difficile parce que les détenteurs ne souhaitent pas qu'il y ait d'autres
qui s'ajoutent.
Bon, si on peut aussi trouver des mécanismes au niveau régional pour ce qu'il a dit, pour que des continents comme l'Afrique et donc fusionnent leur vision pour des négociations en bloc, mais à la fin on va se rendre compte que chaque État devrait chercher à soutenir sa puissance. Un État comme la RDC, absolument, qui est un potentiel illimité,
absolument,
ne peut pas mettre son destin entre les mains des Nations Unies, entre les mains, je ne sais pas, du coup, secrétaire, ou dire que telle résolution a dit ceci. Donc, on croise maintenant les bras, on attend que quelqu'un vienne appliquer cette résolution. Ce qu'il faut faire, c'est de trouver une classe et d'avoir des ambitions, parce que les États sont comme... Ce sont des personnes morales. Si aujourd'hui vous consultez la carte, vous cherchez l'Empire romain, il n'existe plus. Il a disparu parce qu'à un certain moment, la classe politique était en sorte que les autres sont venus et l'ont fait disparaître. Donc nous aussi, nous courons ces mêmes risques, autant que les États-Unis, autant que la Chine, autant que n'importe quel État. Et c'est à nous d'avoir la conscience de notre destin. Sinon, après 50 ans, on va avoir un autre État ici.
Merci beaucoup, Joseph. Votre mot en termes de conclusion.
En fait, c'est remercier les co-débatteurs et compléter un peu le prof. C'est que, moi, c'est sur le moins. En tout cas, il faut la réforme, mais sur le moins. Je me rends compte de plus en plus que les Occidentaux sont très têtus. Ils sont dans l'autosuffisance suprémaciste. Et apparemment, ils vont d'abord faire une fuite en avant d'y arriver. Mon hypothèse, c'est qu'ils vont mener des guerres. La formation des autres attracteurs et centres d'autosuffisance stratégique, ou voilà, de puissance, vont continuer à se faire. Ils vont faire des chocs, et quand ils seront tous fatigués, ils vont faire une nouvelle conférence de Yalta. Et puis, ils vont négocier un nouveau traité. Mais avant qu'on y arrive, comme le disait Gramsci, et c'est ma dernière phrase, l'ancien monde se meurt, un nouveau monde tarde à venir, mais il finira par venir, et entre les deux, le clair-obscur, émergent des monstres. Et je crois que des monstres sont là, et ça va prendre un peu de temps, c'est à nous maintenant de survivre dans ces conditions.
Désiré Kakouma, nous vous disons merci.
Oui, merci aussi, parce que je vais terminer par dire que la guerre déclenchée par la coalition israélo-américaine va en quelque sorte ruiner ce pays. Je suis très admiratif de la résistance iranienne qui, contre toute attente, 3 semaines déjà de combat.
Absolument.
Voyez, ce qui me frappe, c'est que cette guerre est en train même de remettre en cause certaines puissances. Et certaines, les outils de leur puissance sont en train d'être remis en cause. Je donne un exemple. L'Amérique mène la campagne par des missiles de haute précision, les Tomahawk. Une seule unité coûte $1 million. L'Iran réplique par un drone Shahed de $25,000. Et presque pour les mêmes dégâts.
Oui.
Parce que ce sont les raffineries américaines qui sont en train d'être incendiées dans le golfe Persique. Pour acheter un chasseur F-35, c'est plus de $100 millions. L'Iran y oppose un drone Shahed. Voyez-vous? Donc, et on est en train plus de redouter ce que l'Iran fait que ce que font les Américains. Parce qu'on est habitué, bon, madame Fagnac.
Mais vous savez que l'Iran dispose de plus d'ingénieurs que les États-Unis et Israël réunis.
On nous l'a dit, oui, c'est vrai.
Oui.
Ce que vous dites, prof. Et donc, on est en train de remettre en cause la base de la suprématie occidentale. Voyez-vous? C'est vrai, l'Amérique peut bomber le torse en disant, bon, l'opération éclair dont nous avons parlé un jour aussi autour de cette table au Venezuela, oui. On a relevé de nouveaux types d'armes pour asphyxier l'adversaire. C'est pour cette raison que on dit que ce sera, c'est ça, si la guerre, l'Amérique accepte de déployer les forces terrestres, ce sera l'enfer pour les Iraniens. Mais les gardiens de la révolution disent, mais nous vous attendons de pied ferme.
Et les Américains sont divisés sur la question.
Eh bien sûr, bien sûr.
Ceux qui ont été en Afghanistan ne veulent pas.
Ils se souviennent de l'Afghanistan, ils se souviennent de l'Irak, et puis encore du Vietnam aussi. Même de la Somalie, parce que nous en avons parlé.
Oui, oui. C'était un des grands échecs.
Oui, oui.
Mais l'effet même d'assaut, c'est de demander que les autres
puissent... Que les autres puissent venir. Auparavant,
déboucher les détroits de Hormuz montrent qu'ils sont capables de mener des opérations seuls.
Oui. Et donc, le monde... Est-ce que, je suis en train de me poser la question si, après la guerre de l'Iran, est-ce que, c'est pas, est-ce que je vais un peu trop vite pour parler d'un nouvel ordre, peut-être, mais est-ce qu'il y a pas, il y aura des choses qui vont changer certainement.
Ouais, des leçons qui seront tirées, voilà, pour
l'avenir. Lorsqu'on voit la France qui est dans une ambiguïté stratégique, ils disent quoi? La France dit, nous sommes dans une posture défensive. Et vous déployez l'un des fleurons de la marine, le porte-avions Charles de Gaulle. Vous avez le porte-avions qui a peut embarquer plus de 40 avions de combat. Et puis vous dites que vous êtes dans la posture défensive.
Défensive.
Contre quoi?
On attendrait cette affirmation de l'Arabie Saoudite,
oui,
mais pas surtout de la France en fait.
Et puis des deux, voilà, c'est toujours dans ma conclusion. Le parapluie américain, franchement, ne protège pas contre la pluie. Non.
Il est aussi pénétrable.
Très pénétrable. Les Émirats Arabes Unis, le Qatar, Oman, Bahreïn, vous diront, parce qu'ils sont en train de souffrir, pourtant des pays considérés comme étant sous le parapluie protection américaine.
Et ils ont dit qu'ils vont jusqu'à aller chercher le parapluie gardé en Corée du Sud pour venir renforcer... la sécurité dans les... Dans
voilà,
les...
Je termine par là, cher Expedi. La guerre, comme disait le Monseigneur Mosengo, je retiens toujours cette phrase de lui quand il était président de la Conférence nationale. Il est facile d'allumer le feu que de l'éteindre.
Merci beaucoup. C'est par là que nous terminons cette partie de notre émission. Mais avant cela, il y a un communiqué officiel qu'on vient de nous envoyer, un communiqué signé par le nouveau maire de la ville de Bukavu. La mairie de Bukavu informe les usagers de la route et toute la population qu'elle a voie reliant la place Moulamba, l'avenue Fizi, l'avenue du gouverneur, le rond-point Yaouira sera temporairement fermé à la circulation durant toute la journée de ce dimanche 15 mars 2026. Cette mesure vise à permettre aux services techniques de la ville d'effectuer des travaux de signalisation routière afin d'améliorer la circulation et la sécurité des usagers sur cet axe. Le maire de la ville invite par conséquent les conducteurs d'engins roulants, les motocyclistes ainsi que les piétons à prendre toutes les dispositions nécessaires et à emprunter d'autres itinéraires afin d'éviter tout désagrément. L'autorité urbaine remercie la population pour sa compréhension et sa collaboration durant l'exécution de ces travaux d'intérêt public. Faites à Bukavu le 15 mars 2026. Nicolas Kialangali-Loa, maire de la ville de Bukavu, signe ce communiqué. Donc, il précise qu'il s'agit de la voie reliant la place Moulamba, l'avenue Fizi, l'avenue du gouverneur et le rond-point Yaouira qui sera temporairement fermé à la circulation durant toute la journée de ce dimanche. Prenez donc vos dispositions. Nous avons
bravo, monsieur le maire,
assuré cette discussion avec Joseph Baraka, président de l'Institut Patrice Emery Lumumba, Bakanga Ntwali, pacifique enseignant à l'Université officielle de Bukavu, doctorant en relations internationales, et Désiré Kiakwima, confrère journaliste. Jean-Claude Ndaga a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation Expedi Kialou. Passez un excellent dimanche en compagnie de Radio Mandela. Rediffusion de cette émission demain lundi à partir de 19h30. Au revoir.